Je trouve que le Monopoly, c'est dégueulasse. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les problèmes qu'on a en France, c'est parce que toute la génération de nos parents ont acheté le Monopoly.
Si ça se trouve, vous l'avez déjà expliqué, mais pourquoi on est ici exactement?
Vous êtes ici parce que vous êtes les meilleurs parmi les meilleurs.
Simply the best, down, down, down.
Bonjour à tous et bienvenue dans le meilleur podcast, le podcast où on parle des meilleures choses avec les meilleurs invités. Je m'appelle Cyrus.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du meilleur podcast. Aujourd'hui, on va discuter des jeux de société, savoir quel est le meilleur jeu de société, le meilleur jeu auquel se poser, passer un bon moment entre amis, en famille, ensemble. Je m'appelle Tom.
Et avec nous, pour en parler, on a du guest de haute qualité, Tom, n'est-ce pas?
N'est-ce pas? Belle formule inédite pour annoncer nos invités.
Merci beaucoup. En face de moi, on a Géraud qui est déjà venu à ce podcast.
Coucou, c'est moi.
Géraud, est-ce que tu veux te présenter pour les gens qui n'ont pas eu l'occasion d'écouter le podcast sur le meilleur jeu vidéo?
Ouais, du coup, je m'appelle Géraud, je suis créateur de jeux vidéo et je fais aussi de la vidéo pour parler de jeux vidéo. Voilà, beaucoup de jeux vidéo, mais c'est moi.
Sur Doc Géraud.
Doc Géraud, c'est ça, sur YouTube.
Et on reçoit également, pour discuter de ça avec nous, Fibre Tigre. Salut Fibre.
Bonjour, c'est Fibre Tigre.
Merci beaucoup d'être là, Fibre, ça fait super plaisir. Même exercice que pour Géraud, du coup, pour les gens qui ne te connaissent pas forcément, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi?
Alors, en plus, j'adore être dans les podcasts, comme ça, je suis un peu mon homme sandwich. Je fais du jeu vidéo, j'ai sorti récemment Sigma Theory. Et là, en ce moment même, au moment d'enregistrer le podcast, à la Gamescom, on annonce un nouveau jeu, mais j'ai pas le droit de vous le dire, sinon je vais me faire latter. Voilà. Également, je fais de la bande dessinée. J'ai sorti Intelligence Artificielle, Miroir de Novice, si vous voulez le lire, sur l'intelligence artificielle. Je fais du podcast aussi. Alors, bientôt la rentrée chez Qualité. Et notamment, mon podcast régulier à moi que j'aime bien, c'est un podcast qui s'appelle Trajectoire sur les maths, sans vulgarisation, donc il est un petit peu vénère, voilà, si on n'aime pas trop les maths, il ne faut pas trop s'y coller. Mais si vous aimez ça, par contre, allez-y. Voilà. Et en fait, en vrai, mon métier qui me fait gagner de l'argent et qui me fait payer les burgers au McDo, c'est je raconte des histoires. Donc si vous avez besoin d'une histoire dans quelques médias que ce soit, notamment le jeu vidéo, c'est ma spécialité, la fiction interactive, bah voilà, c'est mon métier.
Wow. C'est un storyteller.
Oui,
cet homme est complet.
Ouais, on reçoit un média aujourd'hui. Pour,
ouais, mais je suis vieux.
Cet homme est complet et vieux.
Ça se voit pas, Fibre. Ça se voit pas.
Super.
Ok, bon, un beau petit monde finalement, Cyrus.
Tout à fait. Un beau petit monde pour discuter de ce sujet et t'écouter faire un édito, Tom. Il me semble que c'est le moment de l'édito, Tom.
En introduction de cet édito, Tom, je voulais réaliser un petit test vite fait là, comme ça, avec vous. Est-ce que le mot anatrope vous parle?
Non.
Nope.
Bah, il s'agit pourtant d'un ovule végétal entièrement renversé. Est-ce que le verbe buquer, ça vous dit un truc?
Pas du tout.
Non, bah pourtant, ça veut dire frapper à la porte en picard. Non, mais c'est quand même fou que, comme nous, les Français, on connaît hyper mal la langue française. Hein, à tel point que c'est même pas un des nôtres qui domine l'univers du Scrabble francophone, puisque c'est un Néo-Zélandais, hein, Nigel Richards, qui a remporté plusieurs titres de champion du monde. Et les mots que j'ai cités en début de cet éditum, bah, c'est tout simplement ceux qu'il a utilisés, entre autres, dans sa finale de 2015.
Incroyable, cette histoire.
C'est-à-dire que le gars, hein, qui est Néo-Zélandais, il a pas gagné en plaçant des ha, des he ou même des ex sur mots qu'on triple, mais en calant des mots improbables du vocabulaire français qu'il aura maîtrisé en 9 semaines seulement. Hein. C'est tout simplement une machine de guerre. Le mec, il a appris 200 000 mots en 2 mois, hein, alors que toi, t'as péniblement retenu 12 verbes irréguliers en 4 ans. Alors, bien sûr, hein, il connaît pas la signification ou leur définition, ce serait trop compliqué. Lui, il dit voir les mots de façon mathématique, comme des simples combinaisons de lettres. Mais on parle quand même d'un anglophone qui gagne le championnat du monde de Scrabble francophone. Hein. C'est comme si un mec qui n'avait pas le permis gagnait la Coupe du Monde de Melbourne ou si un mec de gauche gagnait une partie de Monopoly. Mais moi, ce qui m'intrigue, c'est pourquoi avoir choisi le Scrabble. Non, mais on parle quand même du jeu le plus boring, hein, que tu fais seulement pour appeler à ta grand-mère de bien mettre ton nom sur son testament. Et peut-être finalement que la vie de Nigel, elle manquait de frissons. Hein. Peut-être que vivre en Nouvelle-Zélande, c'est comme vivre chez ses grands-parents toute l'année. En tout cas, ce qu'on ne pourra pas remettre en question, c'est l'amour de Nigel pour les jeux de société, un attachement similaire à celui des Égyptiens de l'Antiquité, à qui il arrivait carrément de se faire enterrer avec leur jeu préféré. Ce qui n'est pas une si mauvaise idée au final, car une fois que tu passes de l'autre côté, la vie éternelle, bah, c'est sûrement la seule occasion que t'as pour finir une partie de Monopoly. Mais bon, tout ça n'est peut-être que mon avis sur la question, du coup j'aimerais bien connaître le vôtre, chers invités. C'est quoi le jeu de société qui vous a traumatisé ou laissé un mauvais souvenir?
Ah bah le Scrabble, c'est hyper chiant, c'est affreux. Mais en fait, je vais vous dire la grande trahison du Scrabble. C'est qu'en fait, le Scrabble, tu vois, comme tu l'as présenté, c'est, on se dit, tiens, t'as des lettres, tu vas faire le mot le plus cool possible ou le mot le plus long et tu vas le plaquer, tu vois.
Mais en fait, pas du tout. Parce que quand tu joues avec des pros, ta grand-mère notamment, qui te la met bien.
C'est de la stratégie.
Et ouais, elle met justement le EX avec le X sur le mot compte triple parce qu'elle connaît hyper bien les règles et tout. Et elle te met 150 points dans la gueule. Et toi, t'as ton beau mot de 10 lettres. Bah non, avec son EX, elle t'a battu. Et je trouve que vraiment, c'est vraiment un truc de connard. C'est vraiment, je veux dire, c'est un jeu qui est affreux. C'est-à-dire, c'est un jeu qui est fait uniquement pour que les gens qui aiment ce jeu, ils s'éclatent entre eux, tu vois. Après, je respecte Nigel, hein, son truc, ce qu'il avait, c'est une belle performance, ça. Mais le jeu, il n'est pas du tout social. En plus, c'est violent comme les échecs. C'est-à-dire que si vous voulez regarder les parties de Scrabble en ligne sur Internet, les mecs, ils te disent, tu fais combien de mots la minute ? C'est-à-dire, les mecs, ils plaquent des mots comme ça, bla, 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 tu vois, sur Internet, et ils disent, ah non, mais j'ai vu que tu avais triché, t'as pris un truc d'anagramme sur Twitter. Enfin, c'est d'une violence comme les échecs, sans avoir la noblesse, je trouve. Je n'aime pas le Scrabble. Désolé, les amateurs de Scrabble, j'ai des traumatismes du Scrabble, voilà.
Alors moi, juste pour contrebalancer, parce que je l'ai un peu esquinté dans mon éditum, mais c'est un jeu que j'aime bien parce que je trouve qu'il y a une forme de méritocratie où soit t'es fort en français et du coup effectivement t'as des armes pour gagner une partie, mais juste si t'es malin et que tu vois les ratios de points que ça peut faire de bloquer et tout, d'anticiper, tu peux aussi gagner aussi. Donc je trouve que c'est au final un peu fair et c'est pas juste réservé aux gens qu'on fait cagne hippocagne.
Non mais il y a un autre jeu qu'on peut bâcher, puisque là on parle du meilleur jeu, on peut parler des pires jeux.
Ouais, on peut dire les jeux.
Je trouve
vraiment...
que Monopoly c'est dégueulasse et je pense qu'aujourd'hui tous les problèmes qu'on a en France c'est parce que
toute
la génération de nos parents ont acheté le Monopoly parce qu'ils se sont dit il faut acheter et aujourd'hui on trouve pas un seul appartement valable à Paris parce que les mecs ils sont restés dans cette espèce-là de tu ne peux gagner dans le game de la vie que si t'achètes. Voilà.
Ou si tu restes longtemps en prison, ce qui n'est pas forcément équivoque pour la vraie vie.
Ouais, en c'est plus, quand on même passe la jamais par la caisse départ hein, dans la vie. Hein. Tu peux que jamais les 20 000.
C'est maintenant qu'on parle de Monopoly ou pas ?
On peut, bien sûr.
Parce que j'avais une version de. Bah, Tom, tu le sais, on en reparle.
Le Monopoly Trader.
Ah là 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 là. J'avais une version du Monopoly. C'était un Monopoly où en gros il y avait un mini ordinateur. Et genre, c'était pas des noms de rue, mais c'était des noms de boîtes. Et genre, par exemple, tu tombais sur Gillette. T'achetais Gillette, mais donc du coup, tu devenais actionnaire majoritaire de Gillette. Et quand tu repassais sur Gillette, quelqu'un passait sur Gillette, soit tu touchais des dividendes, mais le gars pouvait aussi dire, vas-y, j'achète une action de Gillette, tu vois. Et donc, on rentrait ça dans le petit ordinateur. Évidemment, le prix des actions changeait en fonction de si on les achetait, on les revendait, etc. Machin. Ça s'appelle Monopoly Trader. C'était incroyable. Je l'ai toujours. C'était ça m'a forgé, ça m'a
ça t'a donné envie de faire des études de commerce.
Bien sûr.
Forcément.
Ce jeu est incroyable, franchement incroyable, très bon souvenir.
Moi j'ai un souvenir. En fait, je trouve que c'est les jeux de société vieux, le fait de les rejouer maintenant, c'est un peu comme voir des films qu'on a aimé enfant et on voit que les défauts après. Et genre j'ai rejoué dernièrement au Cluedo et j'ai été hyper déçu, où en fait c'est quasiment juste un jeu de dés. Au final, si tu fais pas beaucoup de chiffres avec ton dé, tu vois moins de zones du plateau et tu gagnes que sur ça. Et du coup, j'étais un peu déçu par le Cluedo.
Justement, en jeu comme ça, tu vois, petit. Alors, je sais plus comment s'appelait ce jeu. Le jeu où tu tournes une roue.
Destin, hyper déceptif.
C'est horrible ce jeu. Destin.
Tout était misé sur la roulette qui était trop satisfaisante à tirer.
Le message du jeu, c'est ta vie est
et linéaire.
Et c'est complètement aléatoire. Et si t'es dans la merde et que tu vois les autres foncer devant toi, bah fais leur
c'est
coucou.
Ton destin.
Tu les reverras plus. C'est ton destin.
À l'inverse de Monopoly. Là au Monopoly Trader, tu pouvais revendre des actions, en acheter d'autres, etc. Ouais.
Et puis ça fait de toi une belle personne aussi.
Oui, c'est accessoirement.
Bien sûr.
Alors, j'ai écrit une petite méthode pour être power player au Cluedo. C'est-à-dire comment gagner très rapidement au Cluedo.
On va vous faire
le hack.
Ouais, on va vous
attention,
permettre
c'est
de gagner
l'heure du hack.
Ouais, tous les jeux aujourd'hui, tout
non,
être hackable.
Alors juste je l'ai dit en deux secondes, mais après elle s'étend dans le mind game un peu plus long. Mais en gros, si t'as la carte chandelier, ça veut dire que le docteur Lenoir n'a pas. Le docteur Lenoir n'a pas été tué avec le chandelier. D'accord. Okay. Ouais. Donc en gros, tu vas aller dans la véranda et tu vas dire j'accuse le colonel Moutarde avec la corde, machin. Mais justement, là où tu fais du mind game, tu dis j'accuse le colonel Moutarde
avec
le chandelier.
Chandelier.
Personne n'a la carte chandelier, tout le monde a le chandelier, tu es en stress, tout le monde croit que c'est le chandelier, et là tu les as tous baisés et tu peux continuer la partie tranquille.
Bien
tu vois.
Joué.
Ça, c'est le beau jeu qu'on aime.
Et ça, c'est dans les règles, c'est autorisé, tu vois. C'est que des moves comme ça, et là tu commences.
C'est beau. Donc annulez tous vos plans du week-end, sortez 500 balles en cash, parlez sur une partie de Cluedo et faites ça. Vous allez bien réussir votre week-end.
J'adore cette confrontation sur le Cluedo, j'adore.
Fibre et Géraud, donc vous l'avez dit un peu en introduction. Géraud, oui.
Je me permets de.
Permets-toi. Tout le monde se permet ici.
Allez, je me permets, Tom, je me permets d'intervenir. Ça me fait penser là ce que Fibre vient de dire sur le Cluedo. Ça me fait penser à un débat que j'ai, qu'on a d'ailleurs, Tom, toi et moi. Toi et moi, on est du même côté.
Sur les nuls et les inconnus.
Non, c'est pas celui-là.
Ah, pardon.
On est du... Je t'ai dit, on est du même côté.
Donc, pardon.
C'est un débat sur lequel on est du même côté, mais il y a des gens qui comprennent pas forcément ça. Parce que nous, dans les jeux de société, on est à fond, quoi. On joue notre life. Tu vois.
Ah, c'est un point important.
Ouais, et il y a des gens, quand ils jouent aux jeux de société, ils sont là, bah ouais, c'est juste un jeu, et si je perds, c'est pas grave, machin, etc.
Non, c'est même pire, ils te regardent bizarrement parce que toi, t'es vraiment à fond. C'est là où c'est difficile.
Alors, oui, pour moi, ça, c'est une troisième
catégorie. Est-ce que vous êtes à fond, genre mauvais perdant?
Non.
Ou est-ce que vous êtes à fond.
Non, pas mauvais perdant. Ah, mais ça va être. Tu vois,
genre... mauvais perdant, dis jamais que c'est un mauvais perdant, attention.
Hein. Non, mais genre, je vais te décrire la perte et tu juges. Mais c'est genre, tu sais, genre, tu te lèves et tu fais. Tu sais, genre, tu te lèves en rangeant le jeu, tu fais. J'avoue, au troisième tour, j'aurais peut-être dû faire
ouais.
ça. Et tu
sais,
tu refais toute la partie et tout, tu dis, ouais, mais c'est quand t'as fait ça que t'as gagné, en fait. Ah ouais, tu vois, et genre, tu refais tout le truc, mais tu dis pas. J'aurais dû gagner, je mérite de gagner, blablabla.
Tu fais partie des gens qui parlent une heure après encore de leur partie en mode
oui.
Ah putain, si on avait fait ça, mon gars, mais on les a niqués.
Non, surtout d'aller chercher les règles au moindre flou, de pas se dire ok, on fait comme ça, non, de bien aller checker, limite aller voir sur internet s'il y a pas une
bien
règle
sûr,
complémentaire.
Sur les forums
et tout.
Un des jeux où je trouve le
mais
moins.
On est fun, on est fun, je vais c'est marrant.
Non, mais est-ce que vous êtes pareil? Est-ce que quand on crée un jeu,
alors,
on est comme ça aussi?
Géraud, tu me diras si c'est ça, mais ouais. En gros, les game designers. On devient un game designer parce qu'à un moment, tes parents, ils achètent un jeu. Ils ont la flemme de regarder la notice, tu vois. Donc, c'est toi qui tapes les règles. À un moment, tu connais toutes les règles. À un moment, tu te dis, bah, c'est pas mal, j'en ferai bien mon métier. Donc, en gros, moi, je suis un peu blasé des jeux. C'est-à-dire que j'arrive pas à trouver l'excitation. Tu vois, quand je joue au Cluedo, par exemple, je
maintenant que tu
règles.
Sais baiser tout le monde.
Ouais,
en
voilà,
même temps,
c'est ça.
Voilà.
Non, mais tu vois, j'ai oublié. Donc, du coup, effectivement, j'essaie. Enfin, moi, ça m'arrive, effectivement, pour ressentir le feu sacré, tu vois. De perdre un peu, tu vois, je laisse un peu du mou.
Mais des handicaps, quoi.
Ouais, mais.
Genre, Seven Wonders, ce tour, je ne joue pas.
Oui, je joue qu'avec des dés de 3 maximum au Monopoly.
Je suis pas forcément bon, mais en fait, j'aime bien qu'il y ait du chaos, tu vois, que la partie, elle parte en couille et les mecs comprennent pas ce qui se passe. Mm. Et effectivement, j'aime bien aller dans ce sens-là. Après, gagner et perdre, c'est pas.
Ok. Ouais,
je suis pas refermé.
Fibre, il est là pour créer du divertissement.
Voilà, c'est ça.
Il faut qu'on s'amuse.
Ah, c'est beau.
Et toi, Géraud?
Ah, moi, j'ai aussi ce côté, j'aime bien quand même. C'est pas tellement que j'aime bien gagner, mais j'aime bien savoir que j'ai fait le maximum, tu vois,
ouais,
pour gérer le truc. Voilà. Et surtout, ouais, quand on en parle après de la partie, c'est vraiment en mode comment on va gérer la prochaine, en fait.
Ouais.
C'est vraiment ça le truc.
Ouais, moi, ça me rend ouf quand je suis avec des potes, et tu sais, je sais ce qu'ils ont dans leurs mains et tout. Et ils font pas le bon move. Et je suis là genre,
ouais, mais
pourquoi
t'as
pas fait ça? Pourquoi? Ah ouais, j'ai pas pensé. Mais non, mais tu penses maintenant. Tu vois, c'est important, tu vois.
Mais il y a ça et l'implication surtout. Moi, je sais que j'aime pareil beaucoup jouer. Et notamment, on va en parler, mais des jeux qui sont vraiment du tour par tour à certains moments. Et il y a des potes qui, pendant que tu joues, genre, sont sur leur téléphone. Et je ne supporte
ça,
tu vois. Et j'essaie de prendre sur moi et de dire, bah, en fait, on fait un truc important, on est ensemble et tout. Et c'est vrai que moi, surtout de l'implication dans le jeu, ou du moment où on fait un jeu, on est à fond, quoi. Il n'y a plus que ça qui compte. Et faut le faire bien, quoi.
Il y a un respect, en fait. Il y a un respect du jeu. C'est un vrai moment pour moi.
Du coup, on a un petit peu abordé le thème de la conception des jeux. Et vous qui avez l'habitude de créer des jeux, donc Géraud peut-être plus sur un support vidéo et Fib sur des supports divers, c'est quoi pour vous la principale difficulté que vous rencontrez quand vous voulez créer un jeu, que ce soit, je sais pas, peut-être au niveau de la cohérence de l'histoire, de la jouabilité? Pour toi, Géraud, c'est quoi la plus grosse difficulté pour construire un jeu qui fonctionne?
Je pense que jeu de société, on part vraiment des règles au départ, peut-être, pour créer une expérience. On a toujours une expérience en tête quand on veut créer un jeu. Tu vois, plein de petits mots qui vont décrire ce que tu veux faire ressentir aux autres joueurs, que ce soit de la coop, un moment amical, créer des moments propices à la complicité, ce genre de choses.
Alors, je précise que coop, c'est coopération.
Coopération, ouais, tu fais bien.
Et amical, c'est un dérivé du mot amitié qui est dans l'adjectif.
Ouais, ouais. Non, c'est bien, tu fais bien de préciser.
Je préfère au cas où, quoi.
Et du coup, je pense qu'à partir de ces mots qui définissent un peu l'expérience que tu cherches à atteindre, tu vas ajuster tes règles, etc. Tu vas ajuster toutes les pièces de ton jeu, que ce soit un jeu de société.
De ton puzzle, finalement, puzzle.
Bah voilà, c'est comme faire un
puzzle.
C'est excellent, on adore faire des jeux de puzzle et tout, c'est super. Et non, en fait, voilà, je pense que c'est ça ce que je vois qui est difficile dans un jeu vidéo comme dans un jeu de société, c'est que toutes les pièces qui constituent ton jeu vont enrichir ou diminuer l'expérience souhaitée. Donc il faut vraiment penser à tout le temps et tout faire évoluer en symbiose, si je peux dire, tu vois. Voilà.
Donc, c'est de garder au maximum l'expérience que tu as en tête, espérée intacte, et de réussir à
et savoir que
créer des règles qui l'ont rendent intéressantes, mais
sans
éléments, la changer. Quoi.
Tous les éléments que tu fais dans ton jeu, que ce soit les visuels, du son, il peut y avoir du son, même dans les jeux de société, ou les règles, etc., tout va potentiellement impacter l'expérience. Et donc, il faut toujours garder un œil sur tout, et ça peut être difficile. Après, Fibre, on ne sera peut-être pas d'accord.
Un œil ou une oreille, si je peux me permettre.
Oui. Fibre, on veut la réponse.
Alors, le plus grand écueil, si vous êtes un créateur de jeux de société professionnel ou de jeux vidéo professionnel, la plus grande erreur qu'on peut faire, vu de mon grand âge et de ma vieillesse.
Alors, c'est juste pour les gens qui ne te connaissent pas, ils ne voient pas, tu n'as pas non plus 70 ans, voilà, juste d'avoir ça. Une fourchette. On est sur entre 20 et 60. Voilà. Pour les gens.
C'est ça. Et donc, l'idée, c'est... alors déjà, il faut connaître information sur le jeu. Il n'y a pas de propriété intellectuelle dans les principes de jeu. C'est-à-dire que demain, tu veux copier-coller le Monopoly, tu peux le faire. Demain, tu veux copier-coller Fortnite, tu peux le faire. Voilà. Et donc, ce n'est pas protégé. Donc, évidemment, il y a une tentation de dire « Waouh, ce jeu a bien marché, on n'a qu'à faire un Fortnite avec des vampires. Voilà. On n'a qu'à faire un Monopoly avec des ninjas. Voilà, »
Fortnite avec des vampires, je suis chaud, moi.
Ben voilà. Non, mais souvent, ça s'emballe comme ça, tu vois. Et je dirais que dans ta vie, là, Géro, dans sa vie, il va faire 20 jeux. Il va fabriquer 20 jeux dans toute sa vie. Il aura, enfin, pas 21, parce qu'il
est en train de
dire
mon avenir, c'est chaud.
Ouais, c'est ça.
T'es sur destin.
Et donc, en fait,
on est en train de hacker ta vie.
Je trouve que la difficulté, c'est de créer un jeu, de se dire je vais créer un jeu qui soit à la fois nouveau et qui soit à la fois pas trop nouveau. Tu vois, c'est vraiment très compliqué d'être pas trop en avance sur son temps, pas trop en retard et pas dans la copie. Et ça, c'est. Ça, tu vois, tu le sais très rapidement. Tu dis, ah putain, je suis en train de faire un truc qui existe déjà, tu vois. Voilà. Et malheureusement, parfois, ça marche. Minecraft, c'était pas le premier de son genre et il a très bien marché. Donc, Fortnite non plus d'ailleurs.
Après, si je peux me permettre, c'est pas. Je dis pas ça parce que j'ai joué à Monopoly Trader. Mais je...
Est-ce qu'on dépense de la thune dans vos jeux? Parce que moi, il y a que ça qui m'anime.
Non, mais genre, c'est pas très grave si le jeu il est très fortement. Genre, un Fortnite par exemple avec les vampires. Pour moi, si le jeu il est bien et il donne des émotions qui sont ouf et tout, c'est pas grave s'il est.
Ouais, mais ça,
c'est pas grave s'il est très inspiré. Tu
ça,
vois.
C'est ta vision du joueur. Mais après, si je m'adresse aux gens qui veulent fabriquer des jeux. Je veux dire, ne gâchez pas votre vie à faire du copier-coller. Voilà, vous valez mieux que ça.
Ok.
Voilà. Il y a d'autres personnes qui seront payées, qui se lèveront le matin à 8h, qui seront des fonctionnaires de la création et qui feront ça pour vous. Voilà.
Tu parles à Blanc Manger Coco.
Je ne dis rien.
Il y a un point. Il y a...
Eux, j'avoue, je les aime pas. Je peux le dire en podcast.
Sachant qu'on peut ouvrir.
Ça m'arrive jamais de dire ça, mais eux, ils me saoulent.
Il y a une petite polémique.
Non, mais, par exemple, là, je vais lâcher un truc, mais les loups-garous de Tiercelet, c'est pas eux qui ont inventé les loups-garous de Tiercelet. C'est-à-dire, c'est pas eux qui l'ont inventé. C'est même pas eux qui ont inventé la version loup de ce jeu qui était russe à la base. C'est pas grave, c'est la vie. Tant mieux, ils vont vivre une belle vie, il y aura d'autres choses.
Et le popularise pour des gens qui n'auraient pas forcément accédé, le rendre accessible et tout. Après, effectivement, s'il n'y a pas une plus-value qui te permet d'avoir une expérience au moins un peu différente, c'est un peu dommage.
Mais je peux dire pourquoi j'aime pas Blanc Manger Coco.
Mais on peut même dire pourquoi on n'aime pas Cards Against Humanity.
Ah si, moi j'aime bien Cards Against Humanity.
Moi j'aime pas, c'est pour ça que je voulais créer ce débat qui existe et savoir s'il était présent.
Ah non, moi c'est la boîte Blanc Manger Coco que j'aime pas.
Ah, le design.
Non, j'aime pas. Le fait qu'il y ait des Français là qui aient pris en fait Cards Against Humanity, ils ont pas déposé le truc, ils ont mis leur carte sur internet, ils ont dit voilà, imprimez-les si vous voulez, etc. Enfin, ils sont hyper cool, ils ont fait plein d'opérations marketing trop chambées. Genre, ils ont acheté un petit bout au sud des États-Unis pour pas que Trump puisse faire le mur, etc. Enfin, bref, il y a plein de trucs qu'ils font qui sont hyper cool et marrants. Et à côté de ça, t'as un groupe de Français qui arrive qui dit bah nous on va le prendre. Et je crois qu'il me semble que je dis bien n'importe quoi là-dessus, mais je crois qu'ils l'ont. Ils ont déposé leur truc en France, tu vois, et ils vendent, ils ont vendu, ils sont un
blé de ouf. Et c'est exactement
le
même
principe. Et c'est exactement le même jeu,
principe
en fait.
Qui, pour les gens qui n'ont jamais joué, Cyrus, est le suivant.
Le suivant, alors, en gros, il y a deux types de cartes. Il y a des cartes avec, c'est des phrases à trous. Il y a des cartes avec ensuite des mots un peu marrants, genre par exemple...
Et souvent très trash, c'est un jeu qui repose beaucoup sur le trash et,
par exemple,
et le choquant, quoi.
Par exemple...
Curé pédophile.
Ouais, curé pédophile ou les roues.
Ouais, c'est raciste aussi souvent.
Voilà, ou ouais, ça a des communautés, genre les musulmans, les juifs, etc., machin, enfin plein de choses. Et l'idée, c'est de faire des phrases marrantes avec. Voilà. Donc.
Je voudrais juste relativiser sur la question de la copie des concepts américains. On est en train de faire un podcast, tu vois. Toi, tu portes un jean. Ne serait-ce que vous allumez le 20h de TF1. Le journal télé, la présentation, elle est normée par les Américains. Je veux dire, donc toute notre société culturelle est basée sur la copie de l'Amérique.
C'est pas ça qui me dérange. Ouais. Tu vois, genre en plus, je fais du contenu sur YouTube, je suis grave inspiré par plein de YouTubeurs américains, il n'y a aucun problème là-dessus. Ce qui me dérange, c'est le côté. Le fait qu'il y ait des Américains qui le fassent en mode vas-y, on le met sur Internet, on est cool, etc. Machin, et qu'il y ait des Français qui, eux, au contraire, verrouillent. Et essayer de se faire un maximum de fric là-dessus, tu vois. C'est plus ça.
C'est le côté dépôt, etc., de marque qui t'emmerde.
Ouais, l'appropriation.
Si Blanc Manger Coco, il l'avait mis aussi sur internet et que tu puisses imprimer les cartes aussi, etc., machin, tout ça, ça m'aurait pas dérangé du tout.
Très opportuniste, quoi.
Ouais, ils ont corrompu l'esprit du truc initial. Ouais,
exactement.
Alors, juste pour alimenter le débat, parce que c'est un débat très intéressant sur le plagiat que je réfléchis beaucoup. Il se trouve que, par exemple, il y a le cinéma dans lequel vous avez Flash Gordon qui est protégé. On ne peut pas faire de film Flash Gordon. Du coup, quand George Lucas a voulu faire son film Flash Gordon, il a été obligé d'inventer Star Wars. Et on a eu ce cadeau qui était Star Wars. Et il y a le jeu vidéo qui n'est pas protégé. C'est-à-dire que les principes de gameplay ne sont pas protégés. Et ces deux façons... Quel autre secteur de l'humanité n'est pas protégé ? La science. Voilà. Et tout comme la science, le jeu peut... Newton disait... J'ai pu voir loin parce que je me suis hissé sur l'épaule de géant. Effectivement, nous, on peut prendre le travail du mec de Super Mario et dire, j'ai Super Mario, je peux en faire ce que je veux, je vais en faire quelque chose de géant. Et grâce à l'absence de plagiat, l'absence d'avocat qui te saute dessus pour plagiat, alors, Blanc Manger Coco, c'est pas la meilleure des références, mais ils auraient pu faire un truc génial. Ils auraient pu faire un truc très gaulois. Ils auraient parlé de Dorothée, de nos références. Ils auraient pu faire un truc hyper français. Et là, on aurait dit, putain, mais c'est des génies, les mecs, tu vois, et tu les aurais pardonnés. Après, tu vois, c'est toujours la même chose. C'est pas l'intention, c'est la façon. Voilà. Mais bon.
Bah là, pour le coup, c'est l'intention que je blâme.
Ah, c'est l'intention.
Bah parce que, non, mais parce qu'il y a vraiment juste, c'est une intention toute conne de. On fait pareil. Vas-y, on traduit et on le vend, quoi.
Ok, d'accord.
Tu vois? Et on le vend mal, entre guillemets, tu vois. Surtout blanc manger. Rien ne va. Tu vois.
C'est mercantile et pas créatif.
Donc, voilà, rendez-vous vendredi pour l'autodafé des blancs manger coco sur le Leclerc, parking du Leclerc de Vitry.
Et on peut faire le meilleur plagiat un jour.
Ça serait pas mal, le meilleur plagiat.
Bah, quand tu le disais, je pensais à ça.
Ça serait sympathique. Du coup, non, il y avait juste un point, moi, sur Cards Against Humanity qui me gêne un peu. Et c'est marrant parce qu'en checkant un petit peu les infos pour préparer cette émission, j'ai vu que c'était un débat qui était un peu houleux sur Internet, des gens qui le défendent. Des gens qui le condamnent, et c'est vrai que perso, moi, il y a un côté qui me gêne un peu. Alors je trouve que c'est un jeu très bien, parce que je pense que c'est un jeu qui est intéressant pour amener des gens à jouer qui n'ont pas l'habitude, et ça leur donne des automatismes, et ça leur donne peut-être goût à un jeu de société. On va en parler un peu plus tard, mais ça rentre dans les différentes typologies de jeux, et il y a ces jeux d'ambiance dans lesquels peut être rangé Cards Against Humanity. Et moi, il y a un côté qui me gêne dans ce jeu, où je trouve que en fait, c'est quand même une forme de fainéantise intellectuelle, où on te fait croire que tu vas être drôle, tu vas être créatif, tu vas avoir des trucs, alors qu'au final, tu ne fais juste combiner deux cartes ensemble, et vu que chaque carte est très extrême, ça marchera toujours, et c'est au détriment en fait, d'avoir juste des réponses marrantes. Il y a des personnes qui vont peut-être faire une réponse très marrante avec du sens, une personne va juste mettre « c'est une grosse tub », et du coup, la réponse va faire plus rire au détriment d'une qui peut être plus fine, et je trouve qu'au final, ça casse un petit peu tous les élans créatifs et intelligents, et au détriment de juste faire un truc très trash et facile. Voilà, c'était mon petit coup de gueule contre le jeu.
Alors, j'ai l'impression que t'as une plume au vitriol, Tom.
Ouais, bah écoute, mais... je suis imbibé de vitriol. Je me sèche dans la serviette de la bien-pensance pour un petit peu éponger tout ça, quoi.
Je vais rebondir sur ce que tu dis en disant que, genre, il y a une parade à ça.
Oui, mais de laisser les blancs les laisser. Voilà, c'est trous qu'on avait joué ensemble.
C'est-à-dire que voilà, tu gardes juste une feuille, un stylo et genre tu remplis les trous, quoi.
Voilà, avec ça, ce que tu veux, ce qui est plus intéressant. Ouais.
Sinon, la meilleure technique, ça reste encore d'acheter T'Imagine-Si.
Bah, j'attendais de savoir à quel moment l'émission fera un placement de produit à ce niveau-là.
Moi, j'étais chaud pour le placer pour vous en plus, hein. C'est dommage.
Non, mais tu vois, parce qu'en fait, on a pris Cards Against Humanity et on s'est dit, on veut un truc qui soit moins feignant. Et au final, je trouve que T'Imagine-Si, c'est un peu ça l'idée.
Pour les gens qui ne savent pas du tout de quoi on parle, avec Cyrus, on a également sorti un jeu de société il y a deux ans et demi. Ouais. Qui s'appelle T'Imagine-Si, qui est une déclinaison d'un des programmes de Cyrus sur sa chaîne YouTube, où le but, c'est de trouver une situation qui n'existe pas. T'Imagine-Si, le Père Noël existait, par exemple, et de trouver toutes les conséquences possibles à cette situation et lesquelles seraient réellement plausibles, etc.
Ou marrantes, ou quoi.
Voilà. Et du coup, on en a fait un jeu où, effectivement, comme dans Cards Against Humanity, il y a des cartes situation et des cartes conséquences. T'Imagine-Si, il s'arrêtait jamais de pleuvoir, par exemple. Et le but, c'est d'avoir des cartes conséquences, type je me ferai greffer un bras bionique, et le jeu est de raconter le chemin et de justifier le chemin pour arriver d'une situation A à une situation B. Et du coup, on a fait ça parce qu'on trouvait ça un peu frustrant sur Cards Against Humanity, qui n'est pas un petit peu de devoir raconter une histoire ou d'être obligé de justifier des choix, par exemple.
Voilà. Et d'ailleurs, Géraud nous a aidé à faire le jeu.
Oui.
Non, je vous ai pas aidé.
Il était game tester. Enfin,
j'ai testé et j'ai un tout petit
peu. Mais même,
on a fait des petits retours.
On a fait une réunion à un moment et, genre, à l'époque, on avait encore un timer. On voulait mettre un timer dans le jeu et Géraud disait ouais, mauvaise idée parce que ça alourdit trop le process de jeu, etc. Machin. Enfin bref, il y a plein de choses qu'on a testé comme ça. C'était assez marrant.
Ouais, d'ailleurs, je suis crédité dans le jeu, je crois.
C'est vrai ?
Non.
On a rajouté au feutre sur le nôtre.
Ah, sur ma version à moi, il est.
Ouais, on avait mis.
Ah, c'est que sur ma version.
Du coup, pour continuer ce débat, pour rentrer gentiment dans le débat du jour qui est du coup le meilleur jeu de société, comme on le fait un petit peu d'habitude, on va essayer de définir ensemble ce qui fait un bon jeu de société et quels pourraient être du coup les critères et les définitions du meilleur jeu de société.
C'est bien amené quand même. Il est beau ce conducteur.
C'était subtil.
Cyrus, en parlant de beau, tiens, je me tourne vers toi.
Ah, ça me fait plaisir.
C'est quoi pour toi un bon jeu de société et potentiellement les critères du meilleur jeu de société ?
Un bon jeu de société, c'est un jeu de société où genre quand tu vas le proposer, les gens ils vont pas faire « Oh non, c'est trop compliqué ça, oh non, je vais pas pouvoir le faire, oh non, je suis pas à l'aise là-dessus ». C'est un jeu qui va pouvoir fédérer un maximum de gens, en tout cas moi de ma vision que j'en ai.
Accessible, fédérateur.
C'est, voilà, c'est un jeu qui est accessible, un jeu qui est fédérateur, un jeu qui prend pas trop de temps. Ça me fait chier de dire ça parce que pour moi mes meilleurs jeux de société, ceux où j'ai le plus kiffé, c'est... tout l'inverse de ça, tu vois. C'est des jeux où genre faut lire des règles de ouf et le jeu prend minimum 3 heures, etc. machin. C'est là que tu kiffes de dingue. Mais dans ce que moi je vais appeler le meilleur jeu de société, c'est forcément un jeu de société qui va toucher le plus de monde possible aussi et dans lequel ça sera quand même cool, tu vois. Genre, je te parle pas forcément du Uno ou quoi, mais je te parle de jeux qui sont. Je vais pas te parler de Zombicide. À mon avis.
C'est marrant, j'avais Zombicide en tête, quoi.
Parce qu'il est collaboratif.
Non, parce qu'il est compliqué, tu vois.
D'accord.
Et il prend du temps, à l'install, etc., okay. Machin. Pour moi, un bon jeu de société, c'est un jeu où, genre, dans n'importe quelle soirée, je vais réussir à convaincre les gens d'y jouer et on peut y jouer, tu vois.
C'est marrant.
Ma vision, c'est ça. Je sais pas pourquoi.
Ce que je trouve marrant, c'est que tu contextualises automatiquement dans un univers de soirée, tu vois. Tu dis, c'est pas genre un jeu d'un dimanche après-midi ou quoi, c'est que, c'est un jeu pour que.
Ah!
Enfin, ça s'est fait d'office, ouais, mais du coup, c'est un peu marrant que tu te projettes.
C'est vrai.
Donc, il y a quand même, du coup, au final, un peu la notion d'ambiance qui doit être présente et d'avoir un truc où, au final, on se marre un peu.
Oui, okay. Je crois. Et en même temps, ça m'embête parce que, tu vois, je suis en train de m'enfermer dans un truc qui n'est pas forcément... Enfin, je te dis, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il y a de très, très bons jeux de société, des jeux que j'adore, mais je préférais souvent, qui ne sont pas du tout dans le brief que je viens de te donner là. Mais pourtant, pour moi, dans cette quête du meilleur jeu de société, voilà, il faut que... Ça peut pas s'adresser qu'aux geeks, entre guillemets, tu vois.
Fibre, pour toi, les critères du meilleur jeu de société ?
Alors, j'ai une règle universelle et une règle plus fibre. Mais la règle universelle, qui exclut tout de suite le Scrabble, le Trivial Pursuit, tout ça, qui est très importante dans les jeux vidéo, dans les escape rooms, dans les jeux de rôle et dans les jeux de société notamment, c'est qu'il faut pas, pour qu'un jeu soit bon, il faut pas qu'il y ait de connaissances préalables requises pour pouvoir y jouer. C'est-à-dire, je ne sais pas parler latin, russe ou le morse pour pouvoir réussir cette énigme, tu vois. Et le Trivial Pursuit, pour moi, c'est un échec en ce sens-là. Ça crée des clivages très, très forts. Donc ça, c'est très, très important. Et j'étends cette notion de « je n'ai pas à connaître particulièrement les maths, les multiplications pour pouvoir arriver » à aussi à la localisation culturelle. C'est-à-dire que, imaginons que les Américains sortent un jeu hyper populaire sur les règles du baseball. En fait, ce ne sera pas un bon jeu parce que c'est un jeu qui est très localisé. Ou alors les Indiens qui sortent un jeu sur le cricket, qui est très localisé culturellement. Donc ça, pour moi, ça c'est la faute première dans un monde mondialisé, quoi, parce que c'est comme ça. Et sinon, j'avais une petite règle qui est... je l'ai oubliée. Voilà, vous pourrez la couper.
Je suis dégoûté parce que la première était trop cool.
Oui.
Non, mais après alors, on n'est pas obligé de le mettre dans le podcast, mais il y a un ouvrage fondamental pour mon travail qui s'appelle The Craft of Adventure, qui est écrit par Graham Nelson en 1995. C'est les 10 règles à faire quand on fait un jeu d'aventure. Donc, pas d'erreur localisation, enfin, pas de localisation culturelle, pas de... Voilà. Donc, finalement, je n'avais qu'une règle. Excusez-moi.
D'accord. Géraud, pour toi, un critère fort ou essentiel ?
Moi, je suis pas un gros analyste jeu de société ou quoi. J'ai tendance à jouer un peu à tout. Et là, c'est vraiment les critères pour un bon jeu. Je sais pas. En fait, j'aurais plus tendance à juger le jeu par rapport aux intentions. Ça va dépendre de la situation dans laquelle tu te trouves. Comme disait Cyrus, parfois t'es avec des potes qui sont très geeks et tu vas pouvoir jouer à un jeu qui est très long. Parfois t'es à une soirée et tu vas chercher plutôt quelque chose où tout le monde peut jouer sans connaissance préalable, etc. Donc c'est très situationnel. Et en fait, moi, je jugerais un jeu de société comme je juge un jeu vidéo, c'est-à-dire vraiment au regard de ses intentions, qu'est-ce qu'il a mis comme moyen pour atteindre son objectif. Donc ça veut dire, il y a quand même une partie très subjective de quelles sont les intentions du jeu, qu'est-ce que ça veut te faire ressentir. Mais en gros, quand je juge un jeu, je le vois toujours par le prisme mécanique, dynamique, esthétique. Et en fait, l'esthétique, c'est ce que nous, en tant que joueurs, on vit. C'est l'expérience, c'est les émotions que ça va nous apporter. Les mécaniques, c'est le travail direct du designer du jeu, c'est les règles qu'il va écrire, c'est les actions que tu vas pouvoir faire dans le jeu si c'est un jeu vidéo, ou même dans le jeu de société si c'est un jeu de société. Et les dynamiques, c'est les comportements, vraiment les comportements que ça va créer chez les joueurs. Et en fait, en fonction des règles, des mécaniques que tu vas créer, tu vas induire différents comportements chez les joueurs, parce que c'est vraiment le cadre de règles et de mécaniques que tu donnes aux joueurs qui créent les comportements. Tu vois, dans Monopoly, ça va créer un truc plutôt individualiste où tu vas essayer de faire de l'accumulation de biens, essayer de descendre les autres, etc. Donc ça crée un truc plutôt individualiste, voilà, capitaliste, tout ça.
Alors que Zombicide, par exemple, ça crée une dynamique de
collaboration. Ça crée une dynamique de coopération. Il y a plein de petites choses qui font que tu vas être, ta partie sera plus facile si tu coopères. Et donc, en fait, le truc, c'est vraiment ça. Tu regardes l'expérience que t'as, tu regardes les mécaniques qui sont mises en place et tu vérifies, est-ce que tous les comportements que ça crée chez nous, ce qui est au milieu, ça renforce vraiment l'expérience de jeu qu'on est en train de vivre, ou est-ce qu'il n'y a pas des trucs qui la diminuent un peu, etc. Donc voilà, ça va être une façon pour moi de voir le jeu. Donc n'importe quel jeu peut être bon, ça veut pas dire que moi je l'apprécie derrière, mais il peut être bon.
Pour préciser, parce qu'on a cité deux fois Zombicide et c'est peut-être un jeu les gens connaissent pas forcément.
Qui démonte.
Là, du coup, on va rentrer plus dans l'aspect recommandation et parler de jeux un peu plus concrets. Zombicide, vous me reprenez si jamais je le pitch mal, mais du coup, c'est un jeu de collaboration dans lequel on se retrouve dans une ville infestée par des zombies de différents types. Il y a des zombies qui marchent, des zombies qui courent, des gros zombies qui tapent, etc. Et le but, c'est de sortir de la ville ou en tout cas d'aller sur un point A, un point B. C'est un jeu de plateau. Et c'est un jeu dans lequel on va pouvoir fouiller pour trouver des armes, on va pouvoir, en fait, on a des actions limitées par tour, et on doit choisir si, en trois temps d'action, par exemple, est-ce qu'on va courir une fois, tirer deux fois, etc., etc., et prendre des décisions ensemble pour, au cumul de toutes ces actions individuelles, réussir à tous survivre.
Ouais, c'est bien écrit, mais moi, je le vois vraiment comme une simulation d'invasion de zombies, mais sur un plateau de jeu.
Voilà.
Mais tu vas vraiment avoir
c'est beaucoup plus cool de le dire comme ça. Merci, Géo.
Tu vas avoir des petites figurines de zombies et tout qui vont avancer chaque tour.
Et tu vas avoir des scénarios différents aussi.
Ouais, exactement, c'est vrai.
Et le niveau de difficulté du jeu augmente. Enfin, c'est hyper bien fait.
T'as carrément une progression de partie en partie si t'arrives à survivre.
Oui.
Et c'est ça qui est cool aussi.
Ouais. Tom, c'est quoi tes critères, toi ?
Je pense qu'effectivement, un bon jeu, c'est un jeu qui doit. Les règles doivent être résumées en très peu de temps et doivent être bien comprises. C'est quelque chose qui crée une bonne ambiance. C'est con, mais je pense que c'est un jeu de société et ça porte bien son nom. C'est-à-dire qu'on a envie de s'amuser ensemble et je pense qu'il faut que ce soit un jeu pour une raison ou une autre où les gens vont vraiment se marrer et qui va pas créer ce qui, au Monopoly, peut créer un peu de la friction. Et le fait qu'au Monopoly, quelqu'un peut perdre très vite et du coup est exclu du jeu pendant potentiellement une heure après, par exemple. Je trouve pas ça cool. Mm. Je trouve que c'est cool un jeu où on s'amuse ensemble, quoi.
Vous voyez la vanne de Louis C.K. sur le Monopoly ? T'appelles là sur YouTube, il y a un gars qui fait une explication dessus, etc. Machin et tout, mais c'est très drôle. Il raconte comment il joue avec ses filles, tu vois. Et il raconte le moment où il dit à ses filles : Ok, alors voilà ce qui va se passer. Dans le prochain tour, je vais acheter ci, je vais acheter ça, tu vas être en banqueroute, tu vas devoir me supplier pour avoir de l'argent. Et dégomme ses filles, tu vois.
En vrai, il y a une façon jeu de rôle de jouer au Monopoly qui est très amusante. Où on joue au Bétancourt, les Qataris, et il y a un mec qui joue la banque, et on peut faire des contrats avec la banque, on peut le supplier, vas-y mec, je t'en prie, vas-y, file-moi 20 000, je te jure, je vais me refaire, tu vois. Et vraiment, c'est super marrant, quoi. Et on peut tricher. Moi, j'ai une partie de Monopoly, on a deux jeux de Monopoly, et tout le monde a le droit de planquer partout dans la maison des billets, et on les cache et on les reprend, tu vois.
Génial.
Il y a des façons très marrantes de jouer Monopoly. Voilà.
Le roleplay Monopoly.
Ah ouais, le Monopoly, quand vous regardez l'ancienne version de Monopoly, c'est une petite voiture, c'est des chaussures, c'est pas n'importe quoi, c'est des grands industriels, en fait. Ça voulait dénoncer les industries de la voiture, tout ça. Donc il y a un propos politique très très fort dans le Monopoly qu'il faudrait reprendre, attention, voilà.
C'est vrai. Et du coup, juste sur le Monopoly, deux petites anecdotes que j'ai lues en préparant l'émission. Les derniers championnats du monde ont été gagnés par un gamin de 16 ans au nez à la barbe de gens qui jouent depuis longtemps. Il a gagné la finale en 46 minutes, ce qui est quand même un exploit dingue pour gagner au Monopoly.
Je savais même pas qu'une partie pouvait durer 46 minutes.
Mais les amis, en fait, il a joué sur les bleus clairs. Il a, dans un trade, pris les bleus clairs et ça a été un.
Mais l'algorithme du Monopoly pour gagner au Monopoly, il est hyper simple.
Ouais.
C'est tu achètes, point final. T'achètes. Il y a une seule. Enfin, des robots pourraient jouer au Monopoly. Il n'y a aucune stratégie. Gagnante autre que j'achète.
Non, après il y a les échanges et tout, ça c'est cool.
Ouais, mais après
genre t'as un orange, j'ai un bleu clair, j'ai machin.
Il y a une stat comme quoi c'est Avenue Henri Martin dans les rouges qui est la carte qui est celle sur laquelle on passe le plus dans le jeu avec les cartes et tout ça qui est 3,2%, etc. Enfin voilà. Mais oui, après ça reste un jeu de hasard, hein. C'est un jeu dès le Monopoly au final. Et non, il y avait eu la polémique de mon cul aussi au Monopoly. Je sais pas si vous avez suivi ce truc qui était assez marrant.
Ça me dit quelque chose.
Il y a Monopoly qui avait lancé tout un truc de personnalisation par ville des jeux et tout, et ils avaient créé un Monopoly France et les gens pouvaient voter pour les villes qui se représentent sur les cases du Monopoly. Et ils ont soumis ça à Internet, qui est plus ou moins une bonne idée. Et du coup, forcément, avec les forums et tout, c'est la ville de mon cul qui a gagné tous les suffrages pour que ce soit mon cul la case la plus chère du Monopoly. Et sauf que Monopoly a dit non. on veut pas en termes d'image et tout ça. Mmh. Et du coup, le maire de Montcuq est monté au créneau. Ils ont dit que c'était complètement honteux. Télérama a dit que c'était un ersatz de diplomatie, démocratie participative. Enfin, vraiment, il y a eu un truc là-dessus.
Je sais pas pourquoi cette phrase est jolie. Je trouve Montcuq est monté au créneau.
C'est poétique. Et du coup, voilà.
C'est quoi la ville maintenant?
Ils ont mis Dunkerque à la place, qui était la deuxième.
Il y a deux
villes.
Ils ont refait Montcuq quand même. Hein.
Ouais, ils ont créé le Monopoly spécial Montcuq. Pour l'occasion.
C'est vrai ?
Ouais, mais le maire a dit ça ne suffit pas. Le mal était fait. Donc voilà, ouais, juste pour reprendre, donc je pense un truc, bonne ambiance, facile d'accès, et surtout, je pense qu'il faut qu'une dose de surprise, dans le sens où tu sais que tu as envie d'y jouer, parce que la dernière fois que tu as joué, il s'est passé un truc imprévu, et tu vois, que ce soit pas linéaire, et de dire, ah, c'est vrai que la dernière fois, quand même, il y a eu ce truc-là et tout, il y a eu ce moment où tu as une anecdote de chaque partie qui revient un petit peu,
ouais.
Et je pense que c'est une donnée qui, pour moi, est importante, d'avoir un peu cette surprise. Est-ce que vous êtes chaud pour citer comme ça et pitcher rapidement des jeux qui sont pas forcément votre choix principaux, mais un ou deux jeux que vous trouvez vraiment chambés et que vous dites qui aurait pu concourir là-dedans? Bah, vas-y, Jérôme, je te sens inspiré.
Alors moi, jeu auquel j'ai adoré jouer avec des potes, etc. Ça fait des bêtes d'ambiance où tout le monde s'engueule, où il y a de la complicité, il y a du mensonge et tout, c'est Secret Hitler. Je sais pas si vous y avez déjà joué.
Ah oui, je vois très bien, ouais. J'ai pas joué, mais je vois.
C'est très cool. Énorme avantage de ce jeu. Avant même de vous le pitcher, vous pouvez le télécharger et l'imprimer gratuitement sur le site du jeu.
Ça, c'est
Secret
beau, ça.
Hitler, vous y allez, vous le téléchargez. Vous pouvez aussi acheter une belle version boîte ou quoi, mais bref, vous pouvez vous faire le jeu gratis et tester. Et en plus, il n'y a pas beaucoup de matos. Et en gros, le principe, c'est très simple. C'est on est en pleine progression des fascistes, etc. dans l'Allemagne, pas encore nazie, mais ça avance plutôt dans cette direction.
Coming.
Voilà, nazis coming. Et en gros, il y a des fascistes et il y a des, je sais plus ce que c'est l'autre faction, donc on va dire les gentils, qui
c'est un peu arbitraire, je veux
voilà,
dire, comme
bon,
vision,
c'est
un peu manichéen.
C'est une vision. Et en gros, chacun a un petit rôle, donc soit fasciste, soit gentil. Et soit libéral, et il y a des rôles cachés, et en fait les gens ils vont devoir très vite identifier avec qui ils sont en équipe et avec qui ils sont pas en équipe. Le truc c'est qu'il va y avoir beaucoup de mensonges de genre des gens qui vont te faire croire qu'ils vont t'aider à atteindre ton objectif de libéral alors qu'en fait c'est des fascistes. Et en gros tout l'objectif de tous les joueurs, les libéraux c'est de faire voter des lois libérales, et les fascistes, c'est de faire voter des lois fascistes. Et à mesure qu'ils arrivent à placer des lois, il y a des petits trucs qui s'ajoutent en plus. Et en fait, ce qui est vachement bien, c'est que c'est un jeu qui repose beaucoup sur la parole. C'est énormément de prise de parole, d'essayer de convaincre les gens que « Mais non, je suis un mec bien et tout !» Donc c'est vraiment un jeu de dupes. C'est hyper drôle. Surtout qu'il y a des joueurs qui savent qui est qui. Il y a certains qui savent que genre Hitler, c'est lui ou machin et tout, et qu'ils doivent le protéger, tu vois, ou ce genre de choses. Et c'est hyper drôle. Et en plus, le contexte, je suis désolé, mais le contexte est hyper drôle. Les cartes sont trop belles. T'as genre un Hitler, c'est des têtes de lézard et tout. Les fascistes, c'est des hommes lézards. Tu vois,
Ah, c'est des reptiliens.
Ouais, c'est des reptiliens, exactement. Ouais. Donc c'est hyper drôle. Le jeu est beau, c'est super dynamique. T'as pas besoin de connaître des règles complexes ou quoi. Et c'est beaucoup sur du jeu de rôle, du mensonge.
Et de la manipulation.
Et de la manipulation.
Le mot doit être lancé.
Donc voilà, vous pouvez, pour rappel, y jouer gratis. Et ça, c'est vraiment cool. Il vous suffit d'une imprimante et c'est parti.
Cool. Fimo a une recommandation.
Alors, j'ai droit à plusieurs recommandations.
Tu as droit à plusieurs recommandations.
Alors, je vais faire
rapidement.
Tu as
rapidement. Droit à autant de recommandations que d'être synthétique dans chaque recommandation.
Très bien. Ça va être nombreux mais rapide. Donc, je ne cite pas mon jeu préféré, d'accord ?
Vas-y.
Donc, pour moi, mon deuxième jeu préféré, vraiment très fort, c'est le jeu de rôle. Quoi qu'il arrive, c'est le prince des jeux. C'est l'aboutissement, quand vous avez fait beaucoup de jeux de société, vous terminez par le jeu de rôle parce qu'il n'y a rien de mieux. Voilà. Donc, si vous ne connaissez pas, renseignez-vous sur le sujet. Il y en a plein. Voilà. C'est trop compliqué d'en parler, trop long, mais c'est le prince des jeux.
Pour les gens juste qui, peut-être, c'est un domaine qu'ils ne connaissent pas du tout, par jeu de rôle, on peut peut-être entendre un peu du Donjons et Dragons, d'un truc de très archaïque, de maître du jeu, papier-crayon. Est-ce que c'est à ça que tu fais référence
bah,
ou
pourquoi
des
pas.
Formes différentes?
Oui, ouais, si, ça peut être un bon début. Il vaut mieux commencer par Donjons et Dragons parce qu'au moins, on ne se trompe pas. En gros, il y a un raconteur d'histoire. Et il y a des gens qui sont les héros de l'histoire et doivent suivre des règles. Voilà. Et c'est fantastique. Voilà.
Mais j'ai envie de dire, regardez dimanche à 20h.
ouais, Game of Thrones, si vous voulez. Ou sur YouTube, il y a Game of Thrones. Voilà, vous verrez un petit peu comment marche une partie typique. Donc ensuite, on a parlé un peu des jeux qu'on appelle les liens sociaux, c'est-à-dire comme Cards Against Humanity, vous êtes entre quatre potes. Et en fait, c'est des jeux dans lesquels on va se connaître les uns les autres. Donc j'en ai deux à suggérer. Le premier, c'est Gift Trap. Donc Gift Trap, c'est Alors moi j'aime pas trop, je vous dis pourquoi j'aime pas trop Blanc-Manger Coco, Gardagas Smithy, parce que c'est ordurier. C'est-à-dire, moi, les prêtres pédophiles, ça me fait pas rire, tu vois. Donc, par contre, Gift Wrap, c'est super marrant. Donc, par exemple, Géro, il doit nous offrir trois cadeaux. Un panier de fruits, une brosse à dents et, je sais pas, un réveil cassé. T'offres la brosse à dents à qui?
Je dirais Tom.
C'est Cyrus, faut en parler.
Voilà,
okay.
Tu vois, ça. Yes, tu vois, donc, à Tom.
Je sais qu'on pouvait enfin aborder un sujet sensible.
En gros, chacun a secrètement choisi son cadeau. Et donc, tu dis, oh, putain, mais pourquoi tu m'as fait une brosse à dents? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème, tu vois. Donc voilà. Marrant. Alors, ça, c'est les cadeaux nuls, mais il y a voyage au Vatican, devenir astronaute. Donc, c'est assez marrant. Moi, je trouve, on fait bien connaissance. Et du coup, t'apprends qu'un mec à côté de toi, en fait, il fait de la plongée. Enfin, tu vois, je trouve ça mignon comme
tout. Ah oui, limite, t'apprends des choses sur les autres, en fait, au passage.
Voilà, c'est ça. Donc, tu peux jouer avec tes parents. Un autre jeu auquel tu peux jouer avec tes parents qui est très mignon et très cool, ça s'appelle Dixit.
Ah ouais, c'est bien ça.
Très bien, super Dixit. Ouais. Donc Dixit, typiquement le jeu qui pourrait être l'un des meilleurs jeux. Donc en gros, on a des cartes dessinées qui sont un peu ésotériques et il faut, donc il y a plein de cartes et toi tu en as choisi une secrètement et tu dois juste dire un mot ou une phrase que tout le monde ne doit pas comprendre, parce que sinon tout le monde comprend la carte que tu as dit, tu as perdu. Donc il faut que quelques-uns comprennent. Donc c'est vraiment un jeu de complicité intellectuelle très fort. Ouais. Dixit, donc D-I-X-I-T.
Et du coup, en choisissant ta carte, tu donnes une phrase. Par exemple, la princesse et son royaume, voilà. Disons. Et chacun dans son jeu doit choisir une carte pour laquelle la phrase pourrait également matcher. Voilà. Sachant que les cartes, c'est des dessins qui sont très beaux, mais il y a toujours des petits symboles dessinés par-ci, par-là, etc. On mélange toutes les cartes et les gens doivent retrouver la carte du compteur, donc la personne qui, à la base,
a donné la phrase.
Et là, tu t'aperçois, quand tu joues avec un couple qui a vécu 40 ans les uns avec les autres, enfin mes parents, quoi. Les mecs sont télépathiques. Ils disent un truc qui n'a rien à voir.
Ouais.
C'est cette carte-là. Mais références. Pourquoi? Tu sais pas pourquoi, tu vois. C'est assez ouf et c'est assez bien. Sinon, en jeu classique, pion plateau, moi j'aime bien Pandémie. Je trouve que tu peux pas te tromper avec Pandémie. Un jeu collaboratif, faut sauver la planète d'un virus.
Ah, je connais pas ça.
J'ai pas joué non plus.
C'est super fun.
Et en plus, c'est un classique, mais jamais joué non plus.
Si vous avez pas d'amis, en plus, ils jouent tout seuls. Donc, vraiment,
c'est génial. Voilà.
J'aimerais parler de deux jeux encore avant d'attaquer le plus fort.
Vas-y, c'est bon, je t'en prie.
Donc, il y a quand même. J'aimerais parler des jeux qui vont être trending.
C'est hyper synthétique, par contre.
Ouais, ouais. C'est...
Bah, j'essaie d'aller le plus vite possible. Bon. Après, on va pas expliquer les règles.
Si toutes les newsletters étaient comme ça, je m'abonnerais beaucoup plus souvent.
Alors, je pense que. Alors, c'est un pari. Hein. Je vais peut-être me tromper, mais je pense que le jeu de l'année prochaine,
okay.
Le type de jeu qui va hyper cartonner,
okay.
Sur lequel je mise,
c'est les Battle Royale.
Il dit c'est Battle Royale, toi tu dis c'est quoi?
Je sais pas.
Et non, toi non plus.
Moi je pense que c'est les cuisines futuristes.
C'est les Murder Party.
Oh oui, j'ai envie de faire les Murder Party.
Alors ça va être
longtemps.
La Murder Party, t'achètes genre la Murder dans ton magasin de jeux de société, tu l'ouvres et tu fais la Murder avec tes parents. Et t'as pas besoin de préparation, rien, parce que t'as genre l'appli qui parle ou t'as un truc à lire et faites la Murder. Ça dure 3 heures et vous avez, voilà. Alors je travaille sur des Murder. J'adorerais faire.
Je rêve d'en faire une.
En fait, j'aimerais bien faire genre une murder à 300 personnes.
Est-ce que tu peux expliquer les murder parties? Les murder parties, pour les gens qui connaissent pas du tout.
Imaginez, c'est un Agatha Christie, c'est-à-dire vous êtes dans un salon anglais. Alors, dans votre salon.
C'est un peu le Cluedo IRL.
Voilà,
c'est Cluedo IRL.
C'est-à-dire qu'il y a eu un meurtre. Alors, il y a eu un meurtre et un cadavre à vos pieds. Alors, le cadavre n'est pas dans la boîte, hein, mais on l'imagine. Et parmi nous, il y a un meurtrier qui a un bon alibi. Et on a tous des identités. Et on va se parler. Et il va y avoir des événements dans la soirée qui sont des voilà. On mange aussi, il y a un vrai repas, c'est très social. Hein.
C'est très roleplay comme.
Voilà, à un moment, minuit sonne, on se lève, qui est le meurtrier? Tout le monde accuse quelqu'un, et si on a trouvé la bonne personne, eh ben on a gagné. Si le meurtrier a réussi à induire tout le monde en erreur, ben il a été sauvé. Et je pense que ça va être un truc assez ouf l'année prochaine. C'est les prochaines Escape Games.
Ouais, voilà. C'est vrai.
Et enfin, j'aimerais parler quand même d'un jeu qui est hyper important au regard de l'histoire de l'humanité et au regard de l'histoire moderne, c'est les échecs. Parce que ça a l'air de rien, mais les échecs, c'est quand même enfin, il y a vraiment des milliers de gens qui consacrent leur vie entière aux échecs. C'est l'étalon de l'intelligence humaine. C'est quelque chose qui est. Il y a eu des films, beaucoup de films sur les échecs. Ça a été un enjeu de la guerre froide. Et moi-même, ça m'intéresse beaucoup. Il y a une actualité fantastique. Aujourd'hui, le meilleur joueur d'échecs s'appelle Magnus Carlsen. Il promet d'être aussi puissant que les grands maîtres tels qu'on les connaît, Kasparov, etc. Donc c'est un jeu très vivant, par contre très violent, mais très fascinant. Voilà.
Ok, bah 19 sur 20 pour les lèvres fibre tigre, c'est ouais. Explosé.
Franchement, j'aurais pu écouter magnifique. Encore longtemps. Quoi.
Ah, mais si j'avais pu, j'en aurais fait deux fois plus. Mais il m'a dit non, t'en as trop mis.
Non, c'était très bien. Non, j'ai dit c'était et très dense.
Et le go par rapport aux échecs?
Bah, le problème du go, j'adore Hikaru no Go.
Ah, on parle pas du go comme ça, si vous voulez.
Oui, du go travers.
Mais le problème du go par rapport aux échecs, c'est que moi, c'est quand même. Enfin, c'est plus intuitif, je trouve. Tu dis pas, tiens, mon cavalier est menacé par ça.
C'est très, comment ça s'appelle, c'est des jeux d'influence, des territoires, tu vois. Moi, j'ai beaucoup de mal.
Cyrus, toi, des mentions honorables, des jeux que t'aimes beaucoup, que tu n'as pas choisi en premier, mais que t'aurais aimé.
Il y en a un que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, qui pourtant est assez vieux, c'est Bang. Qui est un super jeu de cartes, je trouve, où en gros, on joue des cow-boys, etc. Donc pareil, il y a des rôles un peu, comme tu disais, Géro, avec libéral, fasciste, etc. Genre là, il y a genre, le shérif, il y a l'adjoint du shérif, il y a les bandits, il y a le renégat, tu vois, et chacun a des objectifs différents.
C'est des rôles cachés, c'est ça ?
À part le shérif, ouais.
Ah d'accord.
Et en gros, donc il y a aussi un côté roleplay, entre guillemets, parce que chacun a un personnage différent, tu as une carte de perso qui a des capacités, etc. Et le jeu ensuite est très simple, c'est une mécanique où genre tu tires, l'autre esquive, il tire dessus, il y a des cartes machin et tout, c'est que un jeu de cartes et je trouve ça hyper, hyper efficace. Donc ça j'ai bien kiffé. Zombicide j'en ai déjà parlé mais c'est un de mes jeux, voilà. Il y a Creativity aussi que je kiffe. Tom, qu'est-ce que je t'ai bassiné avec ce jeu.
Ouais, on y a joué.
Est-ce que juste là. C'est le jeu avec des feuilles transparentes que tu peux...
Non. Ça on y a
joué. Ouais, et on y a joué pour la première fois il y a...
Très sympa, moi j'ai beaucoup aimé.
On y a joué il y a une semaine, je crois.
Ok, ouais. Et c'est quoi Creativity alors ?
Alors Creativity, c'est en gros, par exemple, tu vas avoir une carte avec un mot, genre par exemple...
Patate,
ok, très bien. Et donc, et ensuite, t'as plein de manières de faire deviner le mot. Donc tu vas avoir du mime, tu vas avoir fredonner, tu vas avoir grimace, ou genre c'est juste avec ta tête.
Mimer une pomme de terre.
Exactement.
Tu vas avoir pâte à modeler, tu vas avoir fil de fer.
Genre un mot, genre motus, genre dites un mot pour le faire deviner, voilà. Ou deux mots pour le faire deviner.
T'as un mot, t'as deux mots et t'as quiz. C'est tu lis une question qu'il y a sur la carte. Et chacune de ces manières, elle rapporte des points différents. Et en fait, ça change suivant la carte. Genre, par exemple, patate, c'est hyper facile avec une pâte à modeler, donc ça sera très peu de points.
Ça sera 10 points, mettons.
Mais,
si je décide de faire la grimace, ça vaut 120 points.
Par exemple.
D'accord.
Tu vois, et donc, en gros, et tu peux pas changer. C'est-à-dire que si tu choisis fredonner, tu restes sur fredonner, mec.
Ah,
et
tu
donc...
fais la chanson des petites patates, mon gars.
Ah, faut la connaître.
Par exemple.
Mais, et donc, ce que je kiffe dans ce jeu, c'est que donc, c'est en duo. Et donc, tu tires la carte, t'es là, et donc, t'as ce truc de OK, qu'est-ce que je vais réussir à faire ? Ensuite, qu'est-ce qui va réussir collègue à comprendre ? Et qu'est-ce qui vaut le plus de points et tout ? Et donc, tu as tout ce truc-là que tu fais très vite dans ta tête parce que tu as très peu de temps. Et ensuite, c'est parti. Et genre, tu peux être là à fredonner pendant une demi-heure un truc ridicule. Et le gars qui te regarde, il dit « Mais mec, j'y arrive pas, quoi. Je sais pas ce que tu fais. » Et barre de rire. Et en même temps, je trouve qu'il porte bien son nom, Creativity. Et j'adore ce jeu.
Belle recommandation.
Et moi, Kems, le Kems aussi, pardon.
Okay.
Ah, le Kems, j'adore ça, putain.
Juste après.
Le Kems. Ah, le Kems, j'adore ça.
J'avoue, il y a une drogue. Ouais. Ah, le Kems.
Ah, là, ouais, un petit Kems, jamais non.
Je dis jamais non à un petit Kems. Non.
Alors, on m'a initié à un Uno qui s'appelle Uno Pute, dans lequel il faut vouvoyer les gens. Si tu oublies de vouvoyer, tu prends une carte. Et chaque fois que tu prends une carte, tu dois remercier tout le monde.
Ah,
et
c'est incroyable, j'adore. L'enfer. J'adore le Uno, putain. J'adore.
Déjà que c'est dur de se rappeler de dire Uno, tu vois.
Oui.
Moi dans les mentions honorables j'en avais noté 3 aussi, donc une qui se rapproche un peu de Creativity mais qui pour moi est un des meilleurs dans le domaine, c'est le Cranium qui je trouve est un jeu, si on aime bien, voilà, c'est un mélange un peu entre un Trivial Poursuite mais en moins chiant parce qu'il y a différentes épreuves, il y a du mime, il y a du fredonnage, il y a de l'anagramme, il y a plein de choses et je trouve que la tonalité est un peu fun de ce qu'il y a à faire et ça permet de faire plusieurs choses différentes. Et il y a un aspect que moi je trouve important dans ces jeux là c'est que typiquement si tu as jamais joué, il suffit juste que tu poses un pion, tu lis une carte et tu comprends à peu près les questions. Sinon il y a deux autres types de jeux que je m'étais noté que j'aime beaucoup. Il y a un jeu qui s'appelle Seven Wonders.
Ah ouais, il fait les concise.
Qui est un jeu versus, du coup, où on est les uns contre les autres, où chacun va incarner une merveille du monde et va devoir la développer, la rendre la plus forte possible en choisissant d'investir dans le commerce, d'investir dans la science, etc. Plein de domaines, dans la guerre, etc. Et en gros, il y a plusieurs sources d'investissement, on les choisit, et à la fin de le jeu est divisé en 3 âges, à la fin de chaque âge, on fait plus ou moins le bilan et des points qui sont attribués aux différentes compétences, et à la fin, on accumule tout ça. Oui, Cyrus ?
Ouais, ça me fait un peu penser à Age of Empire.
J'ai jamais joué, mais c'est un jeu de gestion, ouais.
En version papier, quoi.
Ouais, version papier. Exo.
Version plateau.
Je trouve que le problème de Seven Wonders, c'est que très vite, on se prend la tête, quoi. Enfin, pas entre joueurs, mais je veux dire soi-même.
Il y a des règles compliquées.
Alors, faut faire ci,
faut anticiper des trucs.
La détente n'est, c'est pas très détente. Hein,
non.
Le jeu.
Voilà. Mais moi, j'aime bien ce jeu de gestion de ressources. Et le jeu que j'ai hésité à mettre en 1, j'ai mis le Munchkin. Je sais pas si c'est un jeu auquel vous jouez ou pas.
Alors,
vous
moi, tous les jeux Steve Jackson, style Munchkin, me posent problème parce que c'est à la fois des cartes et à la fois des dés. Et le mec n'a jamais pu se séparer des dés et je trouve que c'est très hétérogène. Parce qu'un jeu de cartes, tu peux jouer sur la banquette arrière d'une voiture, mais tu peux pas lancer des dés.
Il y a
tu peux
jouer un sur la dé plage. Dans le Munchkin.
Ouais, mais tu peux pas y jouer sur la plage, c'est relou. Le mec, il aurait pris 10 minutes de plus, il serait posé, il dit bon, on va faire une mécanique sans les dés. Ça aurait été en 10 fois mieux, mais bon.
Ton dé te sert juste à, dans des certains cas extrêmes, de pas faire, de faire 6 ou 5 ou 6 pour te libérer, mais non, ça mais repose pas beaucoup sur le dé.
Il aurait pu mettre une carte avec des dés sur le dos, tu les lances, et puis voilà, quoi. Mais bon.
Après, si je me permets, maintenant, il y a des applications qui permettent de faire dés.
Si vous voulez, moi, c'est un manque d'élégance, si tu veux.
Ok.
Ouais, je comprends. C'est vrai qu'en tant que game designer,
mais c'est quand même un détail de tout le jeu qui, en soi, est cool en termes de mécanique.
Il faut aimer les dés.
Ok, bon, mais je vais pitcher le jeu maintenant.
Par contre, il y a un truc qui est cool avec Munchkin qu'il faut dire, c'est que t'as plusieurs univers, genre t'as Cthulhu, Space, tout ça, zombies et tu peux les mélanger.
Ouais,
et donc du coup, tu peux faire mélanger
tes extensions.
Voilà,
et un
tu
truc
peux avoir une hache de barbare et décapiter des gens dans l'espace,
mais
c'est cool.
Pitch le jeu parce que moi, du coup,
le Munchkin, c'est un. T'es dans un donjon, t'es niveau 1, le but du jeu c'est d'aller niveau 10. Chaque niveau symbolise une pièce d'un donjon différent.
D'accord.
Tu peux incarner un humain, un nain, un elfe, un alphelin, etc. T'as des races et des classes. Chaque joueur a une race ou une classe que tu vas choper dans des cartes pendant le jeu. Tu vas te stuffer au fur et à mesure du jeu, d'avoir des armes qui te permettront de taper à deux, d'avoir un casque qui se rajoute plus 3, etc., etc. Et le but du jeu, c'est de buter des monstres pour passer au niveau supérieur. Tu passes un niveau que quand tu butes un monstre. Sauf que les autres joueurs peuvent acheter des bonus aux monstres pour qu'ils soient plus forts, ou des joueurs peuvent venir t'aider pour battre le monstre, mais du coup, tu peux gagner des trésors, donc tu vas devoir dealer avec tes potes. Je t'aide pour un trésor, non mec, c'est trop, tu m'aides et moi je t'aiderai gratuit après, ou si tu m'aides pour deux trésors, etc., etc. Et ce qui est cool dans le jeu, c'est que c'est un jeu qui est un peu humoristique, c'est-à-dire que les monstres, il y a toujours des incidents fâcheux qui sont un peu marrants, il y a beaucoup de trolls, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des moments où genre tu vas juste voir une carte, genre malédiction, perdez votre objet, fermez-la, et tu passes ton tour, tu vois. Et il y a ce côté-là qui est un peu marrant.
Je crois que j'y ai déjà joué.
C'est un jeu de bagarre, c'est un jeu d'alliance, c'est un jeu. Je crois que vraiment la tagline du jeu, c'est genre stab your friends, un truc comme ça. Enfin, c'est vraiment en mode jouer, niquer vos amis et gagner, quoi. Donc il y a ce truc un peu bagarre.
Il y a une version qui n'est pas traduite en français, malheureusement, de Munchkin qui s'appelle Chez Geek.
Ok.
Donc chez comme chez moi, hein, Chez Geek. Et en gros, c'est au lieu d'avoir. Enfin, on est juste chez soi. Et l'idée, c'est d'accumuler des points de glande. Et genre, faut rien foutre, faut moins travailler le possible. Tu voles l'argent aux autres, tu joues aux jeux vidéo toute la journée, tu fais des soirées. Enfin, tu t'invites aux soirées des autres plutôt, tu vois, comme ça, tu fais encore moins de choses. Donc, c'est plutôt fun. Moi, j'ai bien aimé cette version-là.
Je vous propose du coup de maintenant accéder à la Ligue des champions des jeux de société et parler du coup de, pour vous, quel est le meilleur jeu de société et pourquoi. Fibre ou Géro, quelqu'un veut commencer à en parler?
Mon jeu de société a été créé fin des années 80 et il a apporté
je suis
il a apporté tellement d'argent à son créateur qu'il a racheté ensuite Donjons et Dragons. Son auteur a également créé Roborally et le jeu est toujours bien vendu. C'est une des meilleures ventes aujourd'hui en termes de jeux de société dans le monde. C'est également un jeu qui fait l'objet de compétitions mondiales et il faut devenir d'ailleurs arbitre de ce jeu. Ce jeu c'est
Monopoly.
Non, les cartes Magic.
Magic the Gathering, exactement. Ah. On a un gagnant. Voilà. Donc pour moi, c'est le meilleur jeu. Donc effectivement, il y a une petite barrière d'entrée quand vous venez. Vous pouvez commencer à jouer par Hearthstone. Hein. Une fois que vous avez compris que c'était super cool les cartes comme ça, ben vous achetez un paquet de cartes Magic. Aujourd'hui, c'est très bien fait parce que si vous rentrez dans le bain. Et ben en fait, avant il fallait acheter plein de cartes, les assembler, faire son petit jeu. Là, on peut acheter des jeux tout faits. Les règles sont assez simples et franchement, que vous soyez tout seul, parce que quand vous êtes tout seul, vous fabriquez votre petit jeu. Quand vous êtes à 2, à 3, à 5, c'est un jeu fantastique. C'est un jeu que vous pouvez équilibrer. C'est un jeu auquel, quand on perd, c'est pas grave. C'est un jeu auquel on peut prendre sa revanche. C'est un jeu où il y a des milliers et des milliers de cartes, ce qui fait que c'est toujours l'inconnu qui vous attend. Et je trouve que c'est absolument fantastique. Si je devais partir sur une île déserte ou vivre 1000 ans avec un seul jeu, ben ce serait Magic. Voilà.
Et c'est un jeu qui est beau en plus.
Ah oui, ouais. En plus il est beau.
C'est vrai ça.
Du coup, c'est quoi si tu peux un petit peu raconter aux gens qui n'ont jamais joué aux cartes Magic, c'est quoi un petit peu l'univers, le but du jeu, le mécanisme?
Donc, vous êtes un sorcier et vous combattez un autre sorcier et vous avez un paquet de 60 cartes environ. Voilà. Et donc, ces cartes, ce qui est bien, c'est que vous les avez choisies, votre premier paquet, il vous a été un petit peu imposé, mais après, vous achetez d'autres cartes et vous choisissez les meilleures. Vous les avez choisies, vous avez créé votre petit paquet, donc vous arrivez à la table, en guerre, on va dire, avec votre petit arsenal. Peut-être que personne n'a jamais vu, et ça, c'est assez excitant déjà. Et ensuite, en fait, vous allez poser des cartes qui vont vous donner de la puissance magique, et avec cette puissance magique, vous allez lancer des sorts, c'est-à-dire vous allez par exemple invoquer un dragon qui va attaquer l'adversaire, ou tout simplement vous allez faire tomber la foudre sur la tête de votre adversaire ou de ses ennemis. Et à chaque carte, elle est pas, je vais pas dire du mal d'autres jeux, mais il y a des jeux qui sont un petit peu simples, comme par exemple Yu-Gi-Oh, où t'as juste des monstres avec, enfin, s'il y a quand même des capacités, mais en gros, chaque carte a vraiment redéfini un petit peu les règles, et on sait jamais à quoi ça va tendre. Quelqu'un va vous sortir une carte, et va vous dire, maintenant, on n'a plus le droit d'avoir de l'énergie magique, par exemple. Ok, comment on fait pour continuer à jouer? Je ne sais pas. Il faut trouver des astuces. Et donc, le jeu est complètement... Enfin, chaque tour, il y a de la surprise. Il faut quand même prévoir. Je trouve ça fantastique. Voilà. J'adore ce jeu. Voilà.
Moi, c'est marrant parce que Magic, je l'ai toujours vu comme un objet de collection. Genre, mon père, il a des tonnes de classeurs de cartes Magic hyper rares.
Tu pourrais être ton père.
Peut-être. Et qui garde de sa jeunesse, tu vois.
Tu peux prendre la voiture, Jérôme, mais tu ne prendras pas mes cartes Magic.
Non, mais vraiment, il a des tonnes de decks et tu sais, tout ça dans des classeurs et tout. Enfin, voilà. Mais du coup, j'ai jamais joué.
Bah, c'est vrai qu'il y a des cartes comme, par exemple, le Black Lotus, je crois que c'est 20 000 euros, ouais. Tu vois. Donc, après, c'est la carte la plus chère. Mais en vrai, ce qui est bien aussi à Magic et ce qui est très démocratique, c'est qu'avec des cartes à 50 centimes, tu peux faire un jeu qui est fantastique. Voilà.
Non, c'est vrai que Magic, c'est un pur jeu. Moi, j'y ai beaucoup joué quand j'étais plus jeune. J'ai même organisé un tournoi dans mon lycée. Donc vraiment, j'étais à fond. Mais pour moi, le souci qu'il y a dans Magic et ce qui fait que je ne peux pas considérer que c'est le meilleur jeu, déjà, c'est marrant parce que j'avais pas pensé en tant que jeu de société, tu vois.
Ouais.
Mais alors que oui, évidemment.
C'est vrai qu'on y pense plus comme nourriture souvent. C'est vrai qu'on se dit le.
Yes, ok. Non, mais le fait que. Tu vois, genre, tu disais dans tes critères. En plus, ça contredit tes propres critères, j'ai l'impression. Parce que tu disais qu'il ne faut pas de connaissances préalables, etc. Machin. Là, c'est pire, il faut un jeu préalable. C'est-à-dire que préalablement, si tu veux jouer à Magic, genre, si tu veux.
Allez, à une soirée... Bien envoyé, Cyrus.
Non.
Si tu arrives à une soirée et que tu veux jouer, etc. Machin, c'est-à-dire que non. Tu dois pas seul, tu dois venir avec ton deck.
Alors je te contredis parce que je dis il y a pas
besoin d'avoir assez de mana pour ça.
Excellent, de bleu. Il faut pas avoir de connaissances préalables. Alors tu pourrais me dire, mais connaître toutes les cartes, ça t'assure de prévoir ce qui peut se passer. Mais il y a tellement de cartes qu'on ne peut pas toutes les connaître. Et je trouve ça, de fait, tu ne peux pas connaître toutes les cartes.
Mais ce que je veux dire, c'est que si tu veux jouer, t'es obligé d'avoir un deck déjà.
Bah, t'es obligé d'avoir un plateau de Monopoly pour jouer au Monopoly.
Non, tu peux avoir un pote qui en a un. Tu vois ce que je veux dire? Et t'as pas besoin de passer du temps à le customiser, machin, etc.
Ça fait partie du jeu.
J'entends.
Ça fait partie du jeu. Mais et c'est intéressant ta remarque sur le fait que Magic n'est pas un jeu de société. Parce que les jeux de rôle, de toute évidence, ne sont pas des jeux de société, encore moins, ils sont encore plus loin. Et je pense que dans les années à venir, en plus des murders, il y aura une unification des jeux en général. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu zappes sur l'équipe, t'as des compétitions de fléchettes, du boomerang et du foot. Et ben demain, le jeu, ce sera le jeu vidéo, que ce soit e-sport ou un mec qui joue à Candy Crush, et ce sera le Magic et le jeu de société et tout. Voilà.
L'oracle a parlé.
Il me semble. C'est des prêts. C'est des vœux pieux.
Je suis d'accord, les tendances sont un peu vers là. Ok, donc on a les cartes Magic du côté de Fibre. Géro, on se situe comment de ton côté sur le meilleur jeu de société?
Alors, le meilleur jeu pour moi, c'est vraiment mon petit choix perso, la petite Madeleine de Proust, hein, comme on dit. C'est un jeu qui s'appelle Squad 7. Donc, Squad 7, le principe est très simple. C'est 4 joueurs, donc ça, c'est de 2 à 4 joueurs. Chacun va se battre pour avoir un maximum de trésors possible et à une équipe, un squad de 7 personnes. Donc, ils partent tous dans la jungle. Et en fait, Squad 7, c'est un jeu qui dure exactement 17 minutes. Parce que c'est un jeu qui se joue avec une bande son. Il y a une bande sonore qui est livrée avec le jeu, tu la lances, et t'as une méga ambiance, mon gars, genre, au début, t'as un son d'hélicoptère et tout, genre, qui dépose tout le monde dans la jungle et tout, et t'entends les gens qui partent dans la jungle, machin, et après, le jeu se lance, tu vois. Et en fait, c'est très très simple, t'as un deck au milieu, ton squad de 7 joueurs, c'est juste 7 vies. En fait, tu t'en fous des persos, il y a des élus et tout, mais tu t'en fous. Chaque joueur a 7 vies. Et t'as un deck au milieu qui est pour tout le monde. Et en fait, chacun leur tour, à chaque tour, pardon, il y a un joueur qui va prendre une carte, la retourner pour tout le monde en même temps. Et en fait, ces cartes, n'importe qui peut les utiliser. Et surtout, n'importe qui peut les acquérir. Par exemple, tout bête, je prends une carte, je l'affiche devant nous quatre, c'est un trésor. Et en fait, c'est un trésor, donc il faut taper dessus. Le premier qui tape dessus récupère le trésor.
Ah, ça, j'aime pas déjà.
Sauf que...
Ça y est, tu m'as perdu. Tu m'as perdu à ce moment-là.
La rapidité, le stress.
La rapidité...
C'est un jeu clairement plutôt réflexe.
Le Jungle Speed, quoi, c'est non pour toi.
Ah, Jungle Speed, c'est non. Okay.
Mais attends, il y a un twist. La bande-son, elle sert à ça. C'est qu'en fait, la carte, par exemple, trésor que je viens de poser, c'est un trésor de jour. Si la bande-son, elle est de jour, parce qu'il y a des phases de jour et des phases de nuit, on peut taper dessus. Mais si tu tapes dessus alors que c'est la nuit, tu récupères pas le trésor et en plus tu perds une vie.
Waouh, OK.
Et en fait le truc c'est chaud, et attendez, ça va plus loin que ça. Si tu tapes sur la carte de jour et que tu te rends compte qu'il y a par exemple genre un indigène ou un serpent dessus, etc., tu récupères le trésor mais tu perds une vie. C'est-à-dire qu'il y a des petits détails sur les illustrations.
Et comment tu fais du coup si c'est un indigène? Tu le butes avant et tu prends le truc?
Tu meurs. En fait, tu perds une vie et tu récupères le trésor, mais tu perds une vie. Donc en fait, c'est vraiment un truc de observation rapidité. Quand le mec sort la carte, il faut très vite voir, ok, est-ce qu'on est de jour? Oui, je peux taper dessus. Est-ce qu'il y a un piège ou quoi sur la carte? Non, je peux taper dessus.
Et tu ne peux retourner que des trésors du coup?
Et en fait, tu retournes des trésors, donc de jour et de nuit, et tu retournes aussi des cartes. Alors je me rappelle pas de tous les détails, mais t'as des cartes genre, si tu retournes une araignée, tu dois prendre la défausse et tu dois distribuer toute la défausse avant qu'il y ait un cri dans la bande-son. Parce que dans la bande-son, de temps en temps, il y a des cris, genre quelqu'un qui se fait assassiner ou quoi. Et en fait, tu dois, tu dois faire l'action qu'il y a avant le truc.
Presque Jumanji, quoi. On est sur.
C'est carrément du Jumanji, mon gars. Et c'est hyper stress et il y a une putain d'ambiance.
Ça donne tellement pas envie de jouer.
Ah ouais? Okay.
Franchement, au début, j'étais chaud. Et après, très vite, c'est devenu un jeu genre anxiété.
Mais en fait, c'est ça. Tu vois, quand je parlais d'intention, etc., tu vois, c'est un jeu qui essaye de faire sentir anxieux, justement, dans la jungle.
Ça, je pense
t'es perdu dans la jungle. La jungle, c'est bourré de dangers, mais aussi de trésors. Et c'est un jeu qui te fait vachement ressentir ça. C'est ça qui est trop cool. Et en plus, il y a des trucs qui sont vraiment marrants, genre tu vas attirer une carte dinosaure et en fait... Ça, c'est vraiment accessoire, mais dans le jeu, t'as un flingue avec des fléchettes et des cibles. Et genre, si tu tires le dinosaure, tu dois tourner une fois autour de la table, tirer sur le dinosaure, la cible dinosaure, et si tu la fais tomber, revenir à ta place avant qu'il y ait un cri.
Waouh!
Donc, c'est méga stress.
Waouh!
Donc voilà, le jeu, c'est tout ça, et au bout de 17 minutes, ça se termine avec qui a le plus de trésors, sachant que généralement, il y a plein de gens qui sont morts au cours de la partie, en tout cas sur la fin, quoi.
On t'a perdu, Cyrus. Hein.
Bon, ce jeu a l'air cool. Mais je me dis, déjà, c'est le genre de jeu où je commence en me disant je vais perdre.
Ou je vais prendre un Exomil, a priori. Parce que
non, mais tu vois, genre, les jeux de rapidité, je suis mauvais, tu vois. Il y a des jeux.
C'est juste pas un jeu pour toi, quoi.
Voilà, c'est ça.
Tout simplement. C'est ça. Mais en tout cas, je l'ai mis parce que je trouve que justement, c'est un jeu auquel n'importe qui, en tout cas beaucoup de personnes, peuvent jouer. Il est très simple à comprendre. Il pose tout de suite une énorme ambiance qui est assez drôle. Il y a beaucoup d'inattendus. Parce qu'en fonction de comment les gens jouent, tu sais jamais quand va y avoir un cri ou ce genre de truc. T'as toujours un stress. C'est vrai que c'est un jeu qui met dans le stress.
Il y a plusieurs bandes son ou c'est qu'une seule qui
joue
la même?
Il y en a plusieurs. Donc tu peux les mettre, tu peux même techniquement mettre un truc aléatoirement, etc. Et c'est ça. Et je trouve que c'est un jeu assez. Après, moi, je suis pas un expert jeu de société, mais assez innovant. Le coup de tout miser sur la bande son, etc.
Comment elle marche la bande son? C'est quoi? C'est un CD? C'est quoi?
Ouais, c'était un CD. C'était en 2002, hein, donc. CD,
donc ça n'existe plus maintenant.
Non, mais tu dois avoir, je pense, sur le site et tout.
Oui, sur YouTube.
Moi, je l'ai encore le jeu. Tu peux encore l'acheter et tout. Je l'ai racheté genre il y a 3 ans, tu vois.
Ok. Après, tout le monde ne peut pas jouer, genre tous ceux qui n'ont pas de bras déjà.
C'est un peu. C'est vrai que c'est un jeu assez excluant.
Le mec tâte le terrain pour son choix, putain, j'adore.
Les arachnophobes.
Ouais, ils peuvent pas jouer.
Ouais, clairement.
Les sourds.
Et puis ceux qui doivent se déplacer vite. Et
puis les gens qui n'ont pas de table pour poser le jeu aussi.
C'est vrai.
Pas pratique, quoi.
Non, bah je change en fait. Non, Magic, c'est bien.
Cyrus.
Ah là là, Tom. Alors moi, je vais vous raconter.
On reste sur notre conflit d'hier soir ou pas?
Bah, je pense. Voilà. Attendez, je vais vous raconter. Je raconte à nos invités ce qui se passe.
Raconte.
Hier, Tom, on s'appelle et tout pour un truc qui n'a rien à voir avec le podcast. Et il me fait, au fait, t'as ton choix pour le podcast demain? Et je fais, ouais, j'ai mon choix. Je pense que c'est. Il me fait, tu veux pas changer? Je fais, pourquoi? C'est le même choix que toi? Il fait, ouais. Ok. Et donc j'ai essayé, j'ai réfléchi, etc. Et je trouve pas de mieux. Enfin,
ça
tu vois.
Être deux contre deux Magic.
Donc donc a priori on
ça
a le même choix.
Bonne conclusion.
Sauf s'il a changé de choix. Hein.
Non, j'ai le même.
Ok. Et ben c'est Time's Up.
Yes. Oh quel bon choix. Waouh.
Bah, j'ai failli y croire au Time Stories à un moment parce que je l'attendais aussi.
Allez. Mais... Alors, pourquoi c'est le meilleur choix, Cyrus?
On en a pas parlé pour l'instant. Time's Up. Vous voyez ce que c'est?
Ouais.
Je veux bien que tu me le. J'ai dû y jouer, mais il y a très longtemps.
J'aime pas la phase mime, je t'ai averti. Moi, c'est.
Je comprends.
Fibre, arrête des désagréables dès qu'on amorce des idées, s'il te plaît. Ouais. On a tous laissé les gens parler. On reste fair play. Hein.
Vas-y.
En gros, Time's Up. On prend une série de cartes. On te fait une série de cartes et c'est le nom de nom de personnalité.
Fictive ou réelle?
Fictive ou réelle, tu vois, ça va de Quasimodo, Casimir.
Jacques Chirac, Romain Soncouré.
Carlos, voilà. Émile Zola, voilà. Et là, donc, il y a une équipe, enfin, il y a deux équipes qui s'affrontent, tu vois. Et le but, c'est que, à chaque fois, dans chaque équipe, il y en a un qui fait deviner aux autres. Et plus tu devines, plus tu as de points. Et donc, le but, c'est de faire, faire deviner le plus de cartes possible.
D'accord.
Okay, et tu as trois manches. Avec donc des modes de
jeu différents.
De modes de jeu différents. Le premier mode, ça va être de donner plein de détails, etc., sans pouvoir dire le nom de la personne. Mais tu peux dire ce que tu veux. Genre, Emile Zola, je peux dire, il a écrit, c'est un auteur, il a écrit Germinal, par exemple. Tu vois, et là, tu vas dire Emile Zola. Yes. Ensuite, la manche 2, tu as un seul mot.
Tu gardes les mêmes cartes tout le long de la partie.
Mais un seul mot. Et donc là, je vais dire Germinal. Tu vois, okay. Parce qu'on a eu un passif, toi et moi, de. Voilà. Et ensuite, la phase 3, donc celle qui déplaît à Fibre, c'est le mime.
C'est la plus marrante, en vrai.
Le mime. Et là, par exemple, je vais mimer un mineur, tu vois, vu que c'est Germinal. Et donc, le mimeur, ça va te faire penser à, du coup...
Mais
ça,
du coup, je dois retrouver un truc qu'on a déjà évoqué avant, c'est ça?
Mais du coup, dans le tour d'avant...
mais oui, souvent, c'est ça.
Parce que c'est toujours les mêmes... T'as un pack de 10 cartes, et c'est les 10 cartes qui vont tourner. Tu vois,
non, mais par personne. En tout, c'est 7 cartes par personne, du coup. Et donc, si tu joues à 4, ça fait quand même 28 cartes. Et là où c'est marrant, c'est que tu vas avoir forcément 2 chanteurs dans le lot. Donc, tu peux pas juste dire chanteur à la phase 2, parce que non, donc tu dois retrouver un truc.
Et quand tu mimes, c'est hyper compliqué. T'es genre, tu l'as.
Ouais.
T'es France Gall. Non.
Mais alors, j'ai une petite question. Genre, toute conne, si t'as pas trouvé à la phase 1.
Oui,
la carte. Comment tu fais pour trouver?
T'es baisé, mais il y a encore pire. Par exemple, il te dit qui a écrit Germinal. Toi, en fait, c'est Balzac, tu vois. Et il te dit Germinal. Alors toi, tu dis Émile Zola. Non, l'autre. Et tu dis Balzac. Et ça va être Germinal associé à Balzac pendant toute la partie,
ouais,
tu vois. Ouais, là, c'est affreux, tu vois.
Ce qui compte, c'est pas la vérité. Ce qui compte, c'est ta vérité.
Tu peux gagner sur des erreurs historiques juste parce que la personne s'est dit voilà, Louis XIV, oui, c'est la Révolution française. Ok, bon, mais Révolution française, Louis XIV, tu vois.
Okay. Et après, il dit il mime la Révolution, mais du coup, Louis XIV, ça n'a aucun sens.
Moi, c'est ce que je trouve.
Ça qui est trop bien dans ce
jeu. Et je reviens sur ce truc de méritocratie t'as pas besoin d'être calé, de savoir exactement ce qu'a fait la personne. Tu peux faire deviner sur une blague, sur un jeu de mots, sur un truc, genre, tu vois, genre Serge Lama, par exemple.
Donc,
tu vas dire
l'erreur du gars
pour faire deviner Serge Lama, tu vois.
Non, mais En vrai, c'est un jeu super marrant. C'est la version moderne de Pictionary, je trouve. Voilà.
Oui.
C'est cool.
Et ce que je trouve trop cool dans ce jeu, c'est qu'il est hyper accessible, est hyper facile.
Et tu peux le créer toi-même.
En plus.
C'est-à-dire que la base, c'est de chacun sur un papier écrit 7 noms de personnes qui se trouvent marrantes, tu fais un tas avec et tu joues avec. C'est hyper accessible. Enfin, c'est comme le petit bac, quoi, tu vois, c'est vraiment un jeu.
J'ai quelques times up fait maison, genre un times up LGBT chez moi, des choses comme ça.
Ok.
Mais voilà, c'était. Parce que les gens font ça comme des fanzines, tu fais des fanzines, tu fais des times up.
J'avoue
que
ça va être cool dans
le jeu. Il y a quoi comme carte dans LGBT?
Je vous avoue que je l'ai jamais ouvert. c'est juste pour la collecte. Voilà.
Ok. Ok.
Chacun ses collections.
Et du coup, donc ouais, sérieux, bah écoute, je me joins à toi effectivement avec les mêmes arguments de c'est fun, c'est accessible, ça se met vite en place. Les règles, tu les expliques vite, t'as juste des cartes, t'as pas besoin de faire une installation et tout.
Ah ouais, mais je croyais qu'on jouait au jeu à la fin en fait.
On pourrait jouer au jeu gagnant. Et du coup, ouais, voilà, pour toutes ces raisons-là, effectivement, si t'as un peu de culture, c'est mieux, mais tu peux te débrouiller. Et c'est un jeu qui est marrant parce que tu vois les gouffres des références que certains vont avoir, d'autres pas. Et quand tu joues entre potes, c'est marrant un peu, tu vois. Moi, je me rappelle toujours de Pimpin. qui devait faire deviner la carte Carlos, qui du coup elle a dit pour faire deviner c'est un chanteur d'opéra burlesque et est persuadé que c'en était un, et du coup tu crées des quiproquos et tu te dis mais qu'est-ce que c'est, et après tu reprends la carte, tu te dis mais c'était ça ou t'as dit ça tout à l'heure, et du coup ça crée des situations
marrantes.
Donc
tu fais opéra Carlos,
et c'est un créateur de délire, quoi, ce jeu, quoi. T'as des dels après avec tes potes, tu les ressors, et non, mais ça rejoint un peu ce qu'on disait en début, c'est que c'est accessible, c'est marrant et c'est rapide aussi. C'est une partie que tu fais en 40 minutes, je pense, à peu près.
Puis je vois, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est assez sympa aussi, c'est que tu te crées un passif avec tes potes, non?
Exactement.
D'une partie à une autre.
Exactement.
C'est un peu ce qu'il y avait dans moi quand j'avais parlé de Secret Hitler, c'est que le côté à l'autre partie, lui, il m'a mis tôt ce bâtard, genre, il m'a juré pendant tout le truc. Bah là, il y a aussi ce côté de passif et tout. C'est sympa, je trouve, de se trimballer une historique de partie en partie.
C'est ça qui est cool. Voilà, donc les challengers sont identifiés. Avant de passer au vote final, je vous propose un petit vrai ou faux, comme le veut la tradition. Donc, vrai ou faux, est-ce que ce jeu de société existe? Ou cette déclinaison de jeu de société existe en tout cas? Je vous donne des noms de jeux ou des idées de jeux, on dit s'ils existent ou pas.
Ok.
Un risque, édition spéciale, conflit israélo-palestinien.
Faux.
C'est complètement faux. Le Milborn de la Bible.
Oui. Vrai.
Ah, c'est genre, faut faire le chemin de pèlerinage.
Vrai, certainement.
On parle de jeu officiel, bien sûr, à chaque fois. Ouais. Pas des mecs qui ont fait un fan...
Compostelborn.
Ils en sont capables.
Le Milborn de la Bible, si
Je veux dire vrai, parce que c'est... Mais j'avoue, ça a l'air fou.
C'est vrai. Le but est de collectionner des séquences de cartes dans 12 périodes correspondant à l'Ancien et au Nouveau Testament. Un jeu dans lequel on doit tout faire pour mourir en prison. Est-ce que ça existe?
Oui.
Certainement,
Oui, ça s'appelle Capital Punishment. Donc dans ce jeu, un joueur peut gagner en manœuvrant ses 4 criminels à disposition, de manière à ce qu'ils se trouvent tous dans l'emprisonnement à perpétuité, le couloir de la mort ou la chaise électrique.
Ok.
Sympa. Ouais. Est-ce qu'un jeu dans lequel on doit tout faire pour assassiner JFK sans se faire repérer, ça existe?
Oui.
Non. Faux.
Impossible.
C'est faux.
Impossible. Le plus gros marché, c'est les États-Unis. Tu vas pas faire ça. Ils vont te décapiter.
Est-ce qu'un jeu dans lequel on incarne un mormon qui doit être le premier à coloniser Salt Lake City existe?
Oui. Oui.
Ça existe.
Ça me semblait trop bien.
Ça existe. Précis. Ça s'appelle LDS Church History Games, sorti en 73, et du coup c'est basé sur la croyance Jésus-Christ des saints des derniers jours. C'est le nom de la mouvance mormone, et du coup le but c'est vraiment de créer cette team de mormons. C'est très premier degré, c'est pour apprendre l'histoire des mormons et coloniser Salt Lake City.
C'est un serious game de mormons, quoi.
Oui. Est-ce que le Monopoly Dijon existe?
Oui.
Oui, absolument. Est-ce que le Monopoly pêche au bar existe?
Non.
Pêche au bar?
Ouais.
C'est un village ou c'est...
C'est le poisson.
Non.
Non.
Eh bien si.
Ah non.
Il existe un Monopoly américain spécial sur la pêche au bar, Monopoly Bass Fishing, où toutes les cases représentent des variétés de bar.
Mmh. Énorme.
On est sur une passion plus plus. Voilà, c'était le petit vrai ou faux.
Eh ben c'était génial.
Ça,
c'était
de la qualité. Pain, on apprend. Du coup, messieurs, je vous propose de passer au vote final.
Ouais.
Donc, pour résumer, on a un carte Magic du côté de Fibre. On a un Seven Squad du côté de...
Squad 7. Je vois que le respect est dans les chaussettes, mais
désolé,
c'est pas grave.
Désolé, Géro, désolé.
Cyrus va voter pour moi de toute façon.
Et Cyrus et moi, on a un Time's Up déjà. Donc, la question est plus de votre côté. Est-ce que vous ralliez sur...
Est-ce qu'il y a une alliance?
Moi, je trouve ça pas très fair d'arriver à deux direct.
Bah, désolé.
Ça arrive. On n'a pas choisi.
On n'a pas
choisi.
Voilà.
C'est tellement pas fair que je vais voter pour vous.
Non, mais c'est pour ça que...
Non, j'avoue que je préférais mourir que de jouer à Time's Up. Non, c'est un peu exagéré. Je préférais passer un après-midi de seum quelque part plutôt que de jouer à Time's Up. Mais c'est vrai que Time's Up, tu peux jouer avec tes parents. Et je trouve ça assez cool. Voilà. Les jeux qui font du lien social, c'est bien. Et tes parents et tes enfants.
Moi, je note que Fibre aime bien jouer avec ses parents.
Non, mais le jeu est un lien social et c'est important. Voilà, la famille, c'est important et les amis, c'est important.
Je suis d'accord.
Voilà.
C'est vrai que Magic, franchement, Magic, jouer avec ses parents, c'est compliqué. Hein.
Ouais, c'est compliqué, ouais.
Enfin, après, ça ne veut pas que Magic, c'est un jeu incroyable. Encore une fois,
ouais,
c'est
un jeu
que j'ai organisé des tournois. Enfin, j'adore ce jeu, vraiment.
Bah ouais,
j'ai passé
non,
énormément de temps. Et à l'époque, quand j'étais gamin, je dépensais un fric fou aussi dans les boosters et tout. Bon, aujourd'hui, tu vois, genre, j'ai dû peut-être lâcher 100 balles, 200 balles, mais à l'époque, c'était genre une... C'était toutes mes économies.
Alors, remarque, t'as bien investi parce que si t'as acheté tôt, ça doit valoir cher maintenant.
Ouais, bah j'en ai.
T'as pas revendu des cartes?
Si, j'ai revendu quelques cartes. Genre Vizara, j'avais Vizara, je l'ai revendu et tout, j'étais un peu dégoûté.
Donc, est-ce qu'on a une forme de consensus qui se dégage pour dire que le meilleur jeu serait le Time's Up?
Oui.
Oui?
Allez.
Ok, c'est officiel, bravo, le meilleur jeu de société, c'est Time's Up!
Mais on est tous d'accord pour dire que Magic c'est très bien aussi.
Exactement.
Et Squad 7 c'est excellent.
Et Squad 7, on n'essaiera pas tout de suite.
Mais on fera peut-être un Twitch où on essaiera.
Moi je suis chaud pour un live sur ta chaîne, Géro, où on joue à Squad 7.
Ouais, moi je suis trop chaud aussi.
Ah mais viens quand tu veux, on jouera à Squad 7.
Allez.
Avec plaisir. Allez.
Merci beaucoup d'être venu discuter de ça avec nous. Merci Géro, merci Fibre.
Merci.
Géro, où est-ce qu'on peut suivre tes actualités, ton travail et ce que tu fais? C'est l'instant promo.
C'est l'instant promo. Et bah sur YouTube, c'est Doc Géro, donc DOC plus loin GERAUD. Et mon émission, ça s'appelle Game Anatomy. Et sinon, c'est Dr Géro sur Twitter, etc. Donc je parle de jeux vidéo, de game design, tout ça, tout ça. Et mon jeu, Un Pas Fragile, qui est sorti il y a un ou deux mois sur iOS, Android et Steam.
Et donc Game Anatomy, c'est une rubrique de
c'est
vidéos
une émission,
tu parles de quoi dedans?
C'est une émission où je parle de la conception de jeux vidéo et je prends des exemples de jeux pour montrer comment ils ont réussi à faire des trucs complètement ouf qui font que ce sont des bons jeux en général.
Comme un épisode, par exemple, serait...
Un épisode sur comment ils ont géré l'escalade dans Zelda, dans le dernier Zelda. Et qu'est-ce qui en fait un bon jeu d'escalade?
Ah, je l'ai pas vu, ça.
Ah ouais? Eh bah, ouais. Il faut que t'ailles le voir.
Ouais, mon petit gars. Moi non plus, je l'ai pas vu, ça a l'air trop cool.
Ah, c'est chelou. Okay. Je l'ai pas vu passer.
Fibre, où est-ce qu'on peut suivre ce que tu fais? Tes nombreuses activités.
Essentiellement sur @fibretigre sur Twitter. Donc fibre
tout attaché
et tigre, ouais, comme un tigre tout attaché, c'est ça. Voilà, et si ça vous branche de rattraper du jeu de rôle avant la grande reprise en septembre sur le stream, vous tapez Game of Roles, donc Games of Role, ROLES sur YouTube, vous pouvez pas vous tromper, vous tomberez sur nous. Voilà.
Et le podcast Trajectoire, si vous êtes férus de mathématiques.
Ouais, bah si vous êtes férus de mathématiques, on a en émission en septembre, alors c'est pour le délire que je vous le dis, hein, on a les produits dérivés en finance. Ensuite, en octobre, on aura les points rationnels dans les mathématiques. Et enfin, en décembre, on aura les nombres transcendants, ça va être fantastique.
C'est vrai, c'est invité sur les trois émissions.
J'aurai une chronique, effectivement.
ok, bah chouette tout ça.
Chamé. Et nous, Tom, où est-ce qu'on se retrouve?
Est-ce qu'on se retrouverait pas dans deux semaines pour une nouvelle émission du meilleur podcast?
Je crois bien, Tom.
Je crois aussi. On se quitte en chanson, comme bien d'habitude, sûr. Dans la joie et la bonne humeur.
Avec plaisir.
3, 4,
Simply the best. Down, 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 down.